わ、美味しい。よし、こう。
Voilà. Et on y va et bah, je vais partager mon écran.
Ah oui.
C'est celui-là. C'est celui-là. C'est bon là, vous le voyez?
Bien.
Voilà.
Oui.
Et puis on y va alors. Donc vous voyez un cours sur le salut. On change un petit peu de sujet. On a parlé de la création, on a parlé du mal. Ça enregistre là ou pas? Est-ce que vous voyez si ça enregistre?
On voit
Oui,
pas.
c'est en cours d'enregistrement, oui.
Oui, ça enregistre.
Comment vous le voyez?
Nous avons été informés.
Ah oui, c'est ça, on nous l'a
dit. Je vois pas ma
Et puis il y a un petit voyant en haut également
voyez?
qui indique enregistrement. Ouais.
D'accord. Et donc, on
ah
a
oui,
parlé
ok.
de la création, on a parlé du mal, et puis la dernière fois de la mort et du péché, parce que c'est vrai, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est comme cassé dans notre monde. Et maintenant, on aborde la question du salut. Et pour dire que le projet de Dieu, je le dis d'emblée, c'est un projet de salut. Et ça, c'est cette idée que le cours voudrait éclaircir. Alors, vous voyez, la tradition chrétienne, elle nous dit quelque chose de très spécifique, qui est que Jésus-Christ nous sauve. C'est pour ça que je vous ai mis cette diapositive. Vous voyez ce que ça représente?
La présentation au temple.
La présentation au temple. Donc, ça, c'est une fresque de Giotto qu'on trouve dans la chapelle des Scroveni à Padoue. Et on voit le vieillard Siméon au milieu qui tient dans ses mains l'enfant Jésus. Et on l'entend dire, c'est ce que nous dit l'Évangile, « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Peut-être que vous connaissez ce cantique. Mais on reconnaît dans ce bébé le sauveur tant attendu. Et pour lui, une lumière s'allume et il dit bah, « Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. » Vous voyez, on touche à l'essentiel. Et c'est pourquoi dans la liturgie des heures, qui est la grande prière quotidienne de l'Église, ce cantique est récité tous les jours. Et ce n'est pas un hasard non plus, si la présentation au temple est aussi le dernier sujet, le sujet du dernier tableau d'un grand peintre, Rembrandt. Attendez. Admettons, je ne suis pas dans la bonne là ou quoi? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ben non, je ne suis pas dans la bonne. Excusez-moi, je repartage, je suis dans mon PowerPoint de la prochaine fois. Donc, je repartage l'écran. Et c'est celui-là que je partage. Voilà. Hop. Voilà. Et là, vous voyez le tableau de Rembrandt, un tableau inachevé. Et c'est encore Siméon avec l'enfant Jésus. Et ce n'est pas un hasard. Rembrandt est à la fin de sa vie. Et s'il représente ce tableau, mes yeux ont vu ton salut, je peux partir en paix. Voilà. Jésus-Christ sauve. Ça devrait être la conviction de tout chrétien. Et en tout cas, c'est la première conviction, la première certitude fondamentale de l'Église primitive. Jésus est le sauveur du monde. Vous savez que c'est ce que signifie le nom de Jésus en hébreu, Yeshua, Dieu sauve. Vous pouvez penser à d'autres moments dans l'Évangile où on dit la même chose. L'ange à Noël, qu'est-ce qu'il proclame? Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur. Dans les lettres de Paul, Christ, Jésus, notre sauveur. Et puis c'est encore le symbole du poisson. Le poisson qui était ce signe, qui était ce symbole qui était utilisé en signe de reconnaissance dès le 1er siècle par les chrétiens au moment des persécutions romaines. Et pourquoi est-ce qu'on utilisait ce symbole? Parce que ictus, en latin, poisson, c'est un acronyme de Jésus-Christ, fils de Dieu Soter. Vous voyez, Jesus Christos, Theou, Huios, Soter. Jésus-Christ, fils de Dieu Sauveur. Donc, certitude fondamentale de la première Église, et pourtant nous-mêmes, est-ce qu'on est si à l'aise que ça avec cette idée? Est-ce que la notion de salut, et le fait comme chrétien d'avoir à annoncer un salut, ça va de soi pour nous. Est-ce qu'on n'est pas à cet égard dans une certaine forme d'indifférence Est-ce que ce qui compte pas le plus pour nous, au fond, c'est pas le présent, la vie bonne, et puis un accomplissement maintenant, plutôt que le salut. Et là, vous voyez, il faut vraiment prendre conscience qu'on est à mille lieues des générations qui nous ont précédées. Parce que pour elles, le salut, c'était parfois même une obsession. Il fallait penser à faire son salut, faire son salut, d'où l'importance des bonnes œuvres, de la charité, d'où aussi le souci de sauver les âmes, une expression qui est un petit peu désuète. Sainte Thérèse de Lisieux raconte à quel point elle était dévorée de la soif des âmes, à quel point elle brûlait de les arracher aux flammes éternelles. Et elle raconte, elle dit son émotion, quand un condamné à mort pour lequel elle avait énormément prié, Pranzini, qui ne manifestait aucun remords, sur l'échafaud, tout d'un coup s'était retourné pour embrasser le crucifix à la dernière seconde. Pour nous, tout ça, ça apparaît un petit peu dépassé et on peut se demander pourquoi ou comment on en est arrivé à un tel renversement. Trois pistes parmi d'autres. D'abord, il faut savoir qu'au 19e et 20e siècle, il y a eu de très fortes attaques portées contre la doctrine du salut de la part d'un athéisme assez virulent et en particulier de ceux qu'on appelle les philosophes du soupçon. Alors ces philosophes, ils dénoncent le salut soit comme ce qu'ils appellent une illusion d'arrière-monde, ça c'est une expression de Nietzsche, ou alors comme une invention qui a pour seul but de nous rassurer, ça c'est Freud, ou encore comme le stratagème du bourgeois qui utilise le salut pour maintenir la société en place malgré ses inégalités et pour anesthésier le prolétariat. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait miroiter un bonheur après la mort et ça permet de supporter les injustices du moment. Et ça, vous voyez, qui c'est ? C'est Marx. La religion est l'opium du peuple, si ça vous dit quelque chose. C'est ça, ouais. La religion est l'opium du peuple. Alors, ces critiques, elles ont existé et on doit se laisser interroger par ces critiques. Est-ce qu'une certaine représentation du salut ne s'est pas trop focalisée sur l'au-delà en donnant l'impression que le christianisme désertait ce monde-ci, ce qui est complètement faux. Deuxième piste, donc les philosophes du soupçon et les attaques qu'ils portent contre la doctrine du salut. Deuxième piste, le fait qu'une certaine présentation du salut, qui n'est pas si ancienne que ça, projette sur l'homme une image très négative, celle d'un homme perdu, d'un homme déchu. Et l'image de Dieu qui allait avec ne valait guère mieux. C'était un dieu culpabilisant, un dieu comptable, vis-à-vis duquel on se voyait poussé à accumuler des mérites ou à rechercher des indulgences. Alors, il y a eu des résistances. C'était une saine réaction qu'il y a eu des résistances. Et puis, troisième piste, le sentiment qui prévaut que, quoi qu'il en soit, la miséricorde de Dieu aura le dernier mot. Dieu ne peut pas ne pas nous sauver. Il y a une chanson de Paul Naref qui dit « On ira tous au paradis ». C'est ça. Donc, on va tous au paradis. Le besoin d'être sauvé, il ne s'éprouve plus avec la même acuité. Voilà, donc affaissement, vous voyez, d'idées de salut dans nos pensées et puis aussi dans la prédication, parce que vous remarquerez qu'on prêche très peu sur ce sujet. Et en même temps, la situation est paradoxale pour nous, parce qu'en réalité, on voit que notre monde manifeste un grand besoin de salut et qu'il le cherche dans toutes les voies possibles et inimaginables. Regardez toutes les propositions consacrées à la recherche de bien-être, au développement personnel. Regardez l'essor des nouvelles spiritualités. Et là, c'est un grand fourre-tout. Observez toute la littérature ésotérique qui fleurit sur le rayon des librairies. Il n'y a pas beaucoup de livres religieux, mais il y a beaucoup de littérature ésotérique. Pensez au phénomène des sectes. Tout ça, ça témoigne d'une quête existentielle de salut qui cherche à s'assouvir. On peut même rajouter une certaine attitude par rapport à la science, quand on la voit comme le recours à tous nos maux. Sauf qu'aujourd'hui, on n'exprimerait probablement plus les choses en termes de salut, on parlerait plutôt de bonheur. On cherche la façon d'être heureux, de vivre bien, de vivre longtemps. Mais c'est une autre manière, en réalité, de dire que nous souhaitons être sauvés du malheur et de la finitude. Alors, voyez, d'un côté, l'affadissement de l'idée, de l'autre côté, cette quête qui est toujours bien présente en nous. Et donc, la question est, comment se réapproprier l'idée de salut ? Parce que c'est une notion essentielle à la foi chrétienne. Alors, on va revenir au cœur de cette foi, au dessein originel de Dieu pour l'homme. à ce qui constitue la réalisation ultime de notre être et qui n'est autre que la vie avec un grand V, la vie dans la communion divine. Jésus, en Jean 10, dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Et bien ça, c'est le projet. Donc on va y consacrer deux cours. Aujourd'hui, on va débroussailler le terrain. Je vais vous parler de deux conceptions du salut qui ont coexisté dans l'Église ancienne, celle de Irénée, celle de Saint-Augustin. Ça nous amènera à regarder la fameuse histoire du péché originel, dont on n'a pas parlé la dernière fois. Et puis, la prochaine fois, on approfondira certaines formulations d'idées de salut proposées par l'Écriture et par la tradition de l'Église, qui sont comme autant de facettes, en espérant que tout ça vous le rendra désirable. Voilà, alors voilà le plan sous vos yeux. Et un petit mot de bibliographie, donc ça vous avez le document dans ce qui vous a été envoyé. C'est une bibliographie pour les deux cours qui viennent. Lita Bassett, le pardon originel, c'est une bibliste protestante et qui a fait une thèse sur le pardon et qui a eu cette intuition quand même fantastique de parler d'un pardon originel. Et nous, évidemment, on pense tout de suite péché originel. Et bien, elle parle du pardon originel. Elle a écrit un livre assez gros en 1994. Besançon, Jean-Noël, Besançon, Dieu sauve. Ça, c'est très bien pour commencer à lire sur l'idée de salut. Et vous aviez déjà, le trimestre dernier, étudié un petit texte qui était issu de ce livre. Jacques Bure, Le péché originel, qui clarifie une question très compliquée. Il y a beaucoup de choses. Et il n'est pas trop gros, 127 pages, c'est assez intéressant. Adolphe Guéché, deux livres, La destinée et le mal. Toujours la même collection, Dieu pour penser, c'est le tome 1 et c'est le tome 5. Jacques Liebert, Les Pères de l'Église, 1er, 4e siècle. Très intéressant, parce qu'on va parler des Pères de l'Église. Et là, d'abord, c'est bien présenté, c'est agréable à lire. Et en plus, ça contient les textes sources. Moi, je vous fais des commentaires. Mais là, vous avez des textes qui sont enchevêtrés dans le texte, insérés dans le texte, très intéressant de lire vraiment Irénée ou de lire vraiment Augustin. Paul Ricoeur, Le conflit des interprétations sur le péché originel, comment détruire ce concept et retrouver le sens profond de ce concept. Bernard Sesbouet, vous voyez qu'on retrouve toujours un peu les mêmes auteurs. Jésus-Christ, l'unique médiateur, essai sur la rédemption et le salut. En fait, c'est comme Besançon en plus approfondi. Et c'est un ouvrage qui est plus christologique. Là, on est en anthropologie, tout se rejoint. C'est plus christologique. Hors de l'Église, pas de salut. C'est un autre livre qu'il a écrit pour ceux qui s'intéressent à cette question très précise. Michel Spanut, Les Pères de l'Église 2. Et là, c'est la Père de l'Église de la deuxième période, 4e jusqu'à 8e siècle. Donc ça, c'est pour Augustin. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? On attaque notre numéro 1. Je vais arrêter le partage, comme ça je vous vois, parce que sinon je ne vous vois pas tous. Alors, vous voyez, déjà, le mot de salut en lui-même, il ne sonne pas toujours très bien, et pour certaines personnes, il faudrait peut-être parler autrement. Mais peut-être qu'on peut commencer déjà par essayer de redonner au mot et à ce mot de salut leur vrai sens. Derrière ce mot, ce qui est en cause, c'est le sens de notre existence. Ça, c'est très important. Parler d'un salut, c'est dire que notre vie est faite pour être heureuse, pour réussir, et qu'elle vaut d'être vécue. Alors d'abord, quelques questions pour aider à cerner le sujet. Sauver de quoi? Sauver de, on pourrait dire, c'est la face négative du salut. Être sauvé de quelque chose. Alors de quoi? De la faute, du péché, de la culpabilité. Le problème de cette question, c'est d'insister sur la misère de l'homme. L'homme perdu en besoin de salut. Mais est-ce que je suis vraiment perdue? Et là, attention, ne pensons pas qu'on traîne une mauvaise nature dont il faudrait être délivré. Il s'agit plutôt d'être délivré de ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Parce que c'est vrai, on rencontre des obstacles sur notre chemin d'accomplissement. Ce qu'il convient d'être sauvé, c'est que notre vie en vaut la peine, qu'elle a du prix. Donc vous voyez, l'idée de salut, elle ne dit pas que l'homme ne vaut rien. Au contraire, elle implique une haute idée de l'homme. Et l'idée de salut, c'est de dire, ben non, rien n'est fatal, rien n'est irrémédiable, rien n'est irréparable. Le verbe biblique du salut, C'est un verbe qui veut dire faire sortir. Dieu fait sortir Abraham de Chaldée. Dieu fait sortir son peuple d'Égypte. Ce sont des actes de salut. Plus tard, il fera sortir Jésus d'où ? Du tombeau. Et à l'origine, il a fait sortir la création de quoi ? Du chaos, du néant. C'est toujours le même verbe. Parce que la création, en effet, c'est bien le commencement de l'histoire du salut. Et ça, c'est vraiment important de le dire, parce que ça veut dire que le projet, le dessein de Dieu, d'emblée, c'est un projet de salut, au sens large. Au sens où Dieu ne décide pas de notre salut uniquement parce qu'Adam a péché qu'il faut réparer. Le salut est plus ancien que le péché. Et ça, c'est vraiment le message central de la Bible, c'est que l'homme existe pour Dieu et que Dieu veut son bonheur et son salut. À l'origine, il y a quoi ? Il y a l'amour libre et gratuit du Père qui crée pour avoir quelqu'un à qui donner des bienfaits, expression de Saint-Irénée. Toute la parole de Dieu tourne autour de cette bonne nouvelle originelle. Sauvé d'eux. Deuxième question, sauvé par qui ? Alors la foi nous dit, sauvé par Dieu, sauvé par le Christ. Et bien, il y a tout un courant dans la pensée moderne pour lequel attendre de Dieu un salut, un accomplissement, c'est une forme d'aliénation. Est-ce qu'on a encore besoin d'une telle béquille ? L'homme veut s'accomplir sans le devoir à un autre, par ses propres forces. Eh bien, penser ainsi, c'est méconnaître l'importance de l'altérité. L'homme ne peut pas se passer des autres, ni de ses parents, sans qui il n'existerait pas, ni de ceux qui l'entourent et qui l'aident. Et puis même, que vaudrait la vie sans eux ? On est fait pour aimer, on est fait pour une relation à l'autre. C'est ça qui nous sauve, une relation heureuse, aimante. Vous voyez ce que vous avez en Genèse 3, le serpent ? Il leur fait croire que l'autonomie se conquiert en refusant l'altérité. Mais en fait, c'est le pire des mensonges. Donc, on a besoin des autres. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de l'autre avec un grand A pour notre salut ? Ben ça, c'est le débat entre croyants et non-croyants. On a déjà posé la question. Troisième question, sauver de quoi ? Sauver par qui ? Sauver pourquoi ? Et là, c'est la phase positive du salut. Et le texte de Besançon, il développait ça très bien. Il posait en contrepoint du sauver de, le sauver vers. Pourquoi ? C'est la question du sens, au double sens de signification, pourquoi ? Et d'orientation, pourquoi ? En vue de quoi ? Et cette question, elle ne remet le pourquoi, elle ne remet aucunement en cause l'importance de la vie présente. Ne croyons pas parce que parce qu'on parle d'un salut, on peut négliger ici nos tâches, ici et maintenant. Tout simplement parce qu'on marcherait vers la cité future. Non, au contraire, la foi nous fait de ces tâches de tous les jours un devoir pressant. Devoir pressant. C'est vraiment l'expression qu'utilise Gaudium et Spes quand il parle de ça. Alors, d'accord, nos tâches d'aujourd'hui, très importantes. En même temps, on revient toujours à la même idée. Est-ce que on n'étouffe pas un peu si toute cette aventure de la vie, elle est fermée sur elle-même ? Et là, à nouveau, option pour la transcendance. Et la réponse, eh ben, c'est celle d'Augustin. C'est une option qui est proposée à notre liberté. Et la réponse, c'est celle d'Augustin. Tu nous as fait pourquoi, Seigneur ? Vous vous souvenez, je crois que j'ai déjà mis. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. En effet, la révélation, elle nous enseigne que nous sommes faits pour Dieu. Fait pour plus grand que nous. Et donc, ce qui est en jeu dans cette notion de salut, au niveau le plus profond, c'est notre destinée. Et Guéché, dans ses livres, quand il parle de l'anthropologie chrétienne, il en parle comme d'une anthropologie de destinée. Donc, vous voyez, la question du salut, c'est pas d'abord une question morale, c'est une question théologale. Théologale, ça veut dire qu'il se situe sur le plan du rapport à Dieu. Ce n'est pas une question de péché, c'est une question de destin. L'essentiel, c'est la vocation de l'homme à partager la vie divine. Le sauveur, il ne vient pas simplement réparer, il vient accomplir. Il nous fait accéder à la liberté des enfants de Dieu. Alors, j'ai rajouté une quatrième question. sauvé, d'accord, mais à quoi le voit-on? Ça, c'est une objection sérieuse parce que les apparences, parfois, sont contraires. Nietzsche, toujours, dans le prologue de Ainsi parlait Zarathoustra, il parle, je cite, du Dieu des chrétiens aux mines macabres. Si les chrétiens étaient sauvés, ça se verrait, dit-il. Et on y croira peut-être un peu davantage. Ce qui n'est pas faux. Donc alors, si les chrétiens ont des mines de déterrés, à quoi est-ce qu'on voit la réalité du salut? La réponse, c'est, pour moi, on la voit dans la foi. Bien sûr, toutes les petites manifestations de sainteté, de justice, d'amour, d'intelligence, de beauté, de bonheur, de vie qui parsèment notre vie, c'est déjà le signe de ce salut. Mais la réalité profonde du salut, c'est dans la foi qu'on la voit. Parce qu'il y a des réalités auxquelles on accède que par la foi, c'est-à-dire par la confiance. Il faut se risquer à croire et regarder ce que ça produit dans sa vie. Je crois, j'expérimente, et l'expérience me permet de vérifier, de dire oui, c'est vrai. Oui, la foi rend possible ce qui n'adviendrait pas sans elle. Par exemple, quand on aime et quand on s'engage vis-à-vis de quelqu'un, eh ben, il faut avoir foi en lui. Il faut d'abord compter sur son amour, sur sa fidélité, et ça rend possible des choses. Si on commence par s'assurer, par faire des tests dans tous les sens, ben, ça marche pas. C'est comme ça aussi qu'il y a des enfants qui donneront jamais rien si on leur fait pas confiance. Donc, vous voyez, le salut, c'est une expérience à faire. L'expérience que la foi transforme la vie. Elle la rend heureuse, apaisée, lui fait porter du fruit. Mais au départ, il faut faire confiance. Voilà. Le salut, à quoi le voit-on? Ah! Attendez, j'ai plus de batterie. Attendez, hop! Voilà, je me rebranche. Attendez, en plus, attendez, oh là là. Voilà. Ouf! Donc, voilà pour commencer à décrypter un peu l'idée de salut. Est-ce que ça va pour vous?
Oui.
Oui.
Bon. Alors, on va passer au point 2. Les multiples manières de dire le salut. Parce que dans la Bible et dans la tradition chrétienne, ce thème se trouve exprimé sur des registres bien différents. Tout simplement parce que les rapports entre Dieu et l'humanité, eh ben, ils existent toujours avec des mots d'homme. Et aucun de ces mots n'est parfaitement adéquat. Et puis en plus, ils se disent aussi à partir d'expériences humaines qui sont nécessairement diverses. D'où une multiplicité d'approches qui vont se compléter, se corriger. Par exemple, on parlera du salut sur un registre vital. Et là, il sera question de vie, de guérison. Salus, en latin, c'est la santé. Être sauvé de la maladie et de la mort, vous voyez le registre de la vie. Alors, vous savez bien que l'Évangile, il attache énormément d'importance à ça. Mais on trouve déjà plein de récits de guérison et de résurrection dans l'Ancien Testament. Autre registre courant dans la Bible, un salut de l'ordre d'une libération. Ça, c'est vraiment la grande catégorie biblique pour parler du salut avec celle de la divinisation. Libération d'Égypte, libération de l'exil. Et dans notre théologie, c'est plutôt la catégorie qui est restée. Une libération qui peut s'envisager sur un plan politique. Quand c'est, vous voyez, libération de la servitude. Alors, ça vous dit peut-être quelque chose au XXe siècle. Ce sont les théologies de... Ça vous dit quelque chose?
Non.
Ben, les théologies de la libération. Voilà, c'est des théologies qui ont eu lieu en Amérique latine. Mais sur un plan vraiment politique. Et c'est aussi libération de tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Les conditionnements, l'égoïsme, le repli sur soi, la peur. Registre de la libération. Encore un autre registre, le registre judiciaire et financier. Est-ce que vous pensez à des mots qui disent le salut et qui font partie de ce registre?
J'ai lu vos notes, alors je... Je fais joker, je ne dis rien.
Être gracié, peut-être?
Ah ouais, pas mal, pas mal. le rachat, la rédemption. Redimere, devient rédemption, en latin ça veut dire racheter. La rançon. Vous savez, dans l'Église, par exemple, il a été beaucoup question à un moment du rachat de nos fautes. Et l'Église, il se trouve qu'elle a beaucoup valorisé ces termes. Le problème, c'est que parfois, elle l'a fait avec une insistance sur l'aspect un peu commercial, mercantile. Sauf que le vocabulaire du rachat, pour Israël, eh ben, il a bien d'autres accents. Le rachat, pour Israël, c'est un terme de droit familial. Et il renvoie à une institution qui est celle du Goël, G-O-E-L. Le Goël, c'est le rédempteur, le défenseur. Par exemple, c'est celui qui rachète, celui qui a dû se vendre comme esclave pour éteindre une dette. Le Goël, c'est celui qui va épouser la veuve sans enfant de son frère. Donc, dans l'idée de Goël, c'est l'idée que les membres d'une même famille se doivent protection. Et chez les prophètes et dans les psaumes, eh ben, le Goël par excellence d'Israël, c'est-à-dire son racheteur, c'est qui? Ben, c'est Dieu. Je vous donne un petit exemple. Isaïe 43. Maintenant, ainsi parle Yahvé, ton créateur, Jacob, celui qui t'a façonné. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Donc, vous voyez, ce qui est souligné dans ce terme de rançon, c'est pas la transaction, c'est le lien, c'est la solidarité voulue. Voilà. Donc, ça peut prêter à confusion. Et de toute façon, ne pas croire que ces mots de rançon, etc., sont les seuls à dire le mystère du salut. Il y en a d'autres qui disent mieux. Le terme de le mot de libération, par exemple, dit peut-être mieux. Et puis, je termine avec un autre registre qui est peut-être celui qui dit le mieux les choses, c'est le registre relationnel. Avec plein de termes, par exemple, révélation, vision béatifique. Donc là, on va insister sur la relation comme connaissance de Dieu. On va parler aussi de pardon, de réconciliation. Et là, on va insister sur quoi? Ben, sur le fait que la relation abîmée par le péché va se trouver restaurée. On va parler encore d'adoption filiale, de divinisation, de vie éternelle. Et là, ces mots-là, ils disent quoi? Eh ben, ils disent une relation accomplie à Dieu, en plénitude. Dieu nous communique sa propre vie. Autocommunication, grâce, que vous disiez alors. Voilà, tout ça, c'est la plénitude du salut. Et donc, dans la Bible, on trouve tout ça pour exprimer la réalité d'un salut. C'est très important de savoir ça, parce que il faut vraiment prendre conscience que l'idée de salut, elle est beaucoup plus riche qu'on l'imagine. Et ne pas c'est la première remarque, faut pas la fixer sur des mots qui ont peut-être été parfois excessivement valorisés, mais qui ne sont pas les seuls. Deuxième remarque, bref, c'est attention au sens des mots, vous voyez, comme celui de rançon. Parce qu'au terme des siècles, eh ben, au long des siècles, il y a des dérives qui se sont produites et qui ont perverti le sens. Et notamment, tous ces mots qui induisent une idée de compensation. Rachat, rédemption, rançon. Et nous, on les a pensés comme si c'était du donnant-donnant entre Dieu et nous. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on transpose à Dieu notre fonctionnement de la justice humaine. Mais c'est un tort. Que pour nous, il faut qu'il y ait correspondance entre le mal commis et la réparation. Mais la justice de Dieu, elle est par excellence salvifique. C'est-à-dire que c'est l'activité par laquelle Dieu veut nous rendre juste. Et Dieu ne demande pas de compensation. Il nous demande une seule chose, c'est d'accueillir son amour. Et d'ailleurs, elle n'est pas toujours si simple. Mais il ne demande pas du donnant-donnant. Et puis, troisième remarque, rappelons-nous que le salut est d'abord une grâce. Parce que c'est vrai qu'au cours de l'histoire, la réflexion, elle n'a pas toujours privilégié les mêmes aspects. Et bien, au premier millénaire du christianisme, on a surtout insisté sur ça, sur ce que Dieu fait pour nous en Jésus-Christ. Un Dieu qui aime l'homme jusqu'au bout, qui fait gratuitement miséricorde, un salut qui est une grâce. Et puis au deuxième millénaire, c'est le contexte qui voulait ça, on s'est mis à insister davantage sur ce que l'homme Jésus avait accompli pour nous sauver, jusqu'à donner sa vie. Et du coup, on s'est mis à insister sur ce que nous aussi, on devait faire pour obtenir le salut. En oubliant peut-être justement que le salut était d'abord une grâce. Une grâce à laquelle il faut répondre, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, c'est très synthétisé. C'est juste pour dire qu'il ne faut pas se laisser piéger par une seule manière de dire le salut. Puis, dans le prochain cours, on va développer certaines de ces catégories. Est-ce que ça va toujours? Oui, Bernadette. Mettez votre micro. Hein.
J'ai une... il y a tellement de quipro, enfin pas de quiproquo, mais moi j'apprends plein de nouveaux sens des mots en fait. Hein. Ouais. Et je voilà, c'est presque affolant. Mais je me dis aussi à la fois, c'est tout à fait normal qu'on nous critique, puisque les autres ne savent pas le vrai sens des mots.
Ouais, oui, c'est vrai.
En fait, on n'a pas d'autre issue que d'être pas compris, puisque d'une certaine manière, voilà, je me dis que c'est tellement enfin.
Mais c'est pour ça que c'est tellement important d'être au clair soi-même, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut discuter et puis montrer où ça débloque, parce que parfois on est sur des malentendus. Or ces mots, on peut pas les balancer comme ça. Les mettre à la poubelle. C'est des mots qui ont 2000 ans d'espoir. Alors il y a eu des hauts, il y a eu des débats, il y a des malentendus. Mais en même temps, ce qu'ils disent, souvent ils ont un enracinement biblique d'abord. Et puis ces mots, on les retrouve partout, tout le temps dans l'histoire de la théologie. Donc il faut les prendre avec une certaine prudence, mais en même temps, il faut bien comprendre ce qu'ils visent. Alors vous allez voir, quand on va parler des fins dernières dans les deux derniers cours, alors on est en plein là-dedans. On est empêtré dans des tonnes d'images. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que ces images veulent nous dire. Ça reste des mots humains. Voilà, donc il faut essayer de retrouver le vrai sens des mots. Et c'est pour ça que c'est important, les groupes. Parce que c'est dans les groupes qu'on prend l'habitude de, qu'on essaye de prendre la parole et puis qu'on s'aperçoit que l'idée, c'est pas exactement comme ça qu'on voudrait l'exprimer. On y réfléchit à plusieurs, on trouve les meilleurs mots, les meilleures tournures, vous voyez. Et ces mots, ils font partie de notre tradition. Donc, il faut repérer ceux qui sont les plus dangereux. Des mots comme sacrifice, par exemple. Ou comme salut, ou comme, et puis, essayer, nous, déjà, de les comprendre. Mais c'est vrai, c'est un effort. Le problème, c'est que, ça demande un apprivoisement, mais ça demande d'y passer un petit peu de temps, mais c'est vrai, quand on est parachuté comme ça, c'est pas évident. Il y a un jargon, mais c'est comme dans tout, hein. C'est comme dans les métiers, c'est comme dans les, comme dans le sport, c'est comme dans vos métiers professionnels. Il y a un jargon, il faut l'apprendre, et ce jargon, il a une histoire, donc, on s'inscrit là-dedans. Le problème, c'est que quand la culture chrétienne devient très faible,
Voilà, c'est ça.
Il y a tout à réapprendre.
Ouais. Exactement. Et en fait, quand on est mis en difficulté, je dirais même en famille, ça peut être le cas, hein, puisqu'on notre foi peut déranger. C'est compliqué quand même de témoigner. Enfin, on peut témoigner de sa foi, mais par rapport à ce vocabulaire qui peut être très violent.
C'est sûr.
Pour la personne qui ne sait pas, c'est difficile de s'en protéger, en fait. Peut-être souvent c'est le silence.
Il faut retrouver ce que disent ces mots. Donc, beaucoup de salut, on peut parler de bonheur, par exemple. C'est pas éloigné.
Oui.
C'est pas éloigné.
Je réapprends ces mots ce soir aussi.
Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai. Et puis, vous voyez bien que ces mots en eux-mêmes, même quand on les a compris, ils sont encore insuffisants.
Exactement.
Voilà. Parce que c'est nos mots d'homme.
De mon côté, moi j'ai tendance à penser qu'on s'est complètement entiédi sur la notion de salut et que ça serait presque une opération du mal hein, que de nous éloigner de sa conscience forte qui est quand même, c'est ce qu'on a vu, intrinsèque à la foi et le message essentiel hein, que celui du salut. Et donc j'aurais tendance à penser qu'à force de vouloir édulcorer le propos, les différents philosophes, Nietzschéens, tout ce qu'on veut étant passé par là, on s'éloigne un peu de l'importance du message et que le malin il peut se frotter les mains par rapport à ça. Par ailleurs, je trouve aussi, il faudrait que je reparcours tout l'évangile pour le retrouver, mais qu'il y a quand même une notion, moi, de donnant-donnant dans la Bible. Ne fût-ce que le salut est mérité en fonction d'aumône, de la charité, de l'obéissance aux règles que Dieu nous a données. Et encore à l'évangile d'hier, celui qui ne croit pas est déjà jugé, il y a quand même du conditionnel. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de donnant-donnant et que le salut se mérite. Hein. Et d'ailleurs, chez les orthodoxes, de mon point de vue, pour avoir échangé la semaine dernière avec une jeune fille très, très croyante, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose, ça se mérite.
Alors, là-dessus, là, il y a vraiment... ceux dont on est les plus éloignés, c'est les protestants pour le sujet. Hein. Justification par la foi, justification par les œuvres. Et là-dessus, on a fait énormément de progrès dans le dialogue œcuménique et aujourd'hui, on est arrivé à un document qui dit qu'on est tous d'accord pour dire que le salut est promis. Il est d'abord une grâce. Maintenant, il faut y répondre. C'est comme l'alliance. Il y a d'abord un don Et en même temps, derrière, il y a une loi qui est notre réponse à la... Voilà. Mais le salut ne mérite pas... Alors, vous allez voir, on va parler de pélage dans 5 minutes. Et bien, c'est exactement... C'est, on n'est pas loin de ça. Et là, c'est une hérésie qui a été condamnée. Donc, le salut, il est premier. Dieu nous crée. Il crée quelqu'un pour l'aimer et pour lui faire partager sa vie. Alors, après, que nous, on ne doit pas répondre, ben, bien sûr, et ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas en fonction de ça, parce que sinon, on est tous incapables. On est tous insuffisants.
Mais c'est ce qui est dit dans la Bible aussi, que par nous-mêmes, on est incapables, mais qu'en Dieu, on est capable. Hein. C'est dit
alors,
clairement.
Vous allez voir après. Vous allez voir après. Je continue parce qu'en fait, on en reparle tout à l'heure, si vous voulez, ou même à la fin. Parce que là, je vais vous évoquer deux pères de l'Église et je vais vous montrer comment, dans la tradition catholique, déjà dès le départ, alors qu'on est tout près de Jésus, il y a déjà plusieurs manières de comprendre le salut et de structurer le mystère chrétien. Il y a eu des options différentes. Et il faut l'accepter. Il faut accepter qu'il y a des traditions théologiques qui ne sont pas les mêmes et qu'elles peuvent coexister sans mettre en cause la communion à une même foi. Et c'est intéressant, ça, même pour aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors, deux figures, Saint-Irénée et Saint-Augustin. Les pères de l'Église, c'est les auteurs des premiers siècles qui ont été, qui ont été vraiment les pionniers de la pensée chrétienne. Alors, c'est quel le cours? Vite. Où est-ce qu'il a mon PowerPoint? Il est là. Voilà. Alors, Irénée, donc tous ces pères de l'Église des premiers siècles, ça va jusqu'au 8e siècle, ils étaient présents tout autour du bassin méditerranéen, vous voyez la Méditerranée au milieu, Irénée à Lyon, Augustin en Afrique. Et ces gens-là, c'est vraiment eux qui ont façonné la doctrine de l'Église, parce qu'ils ont eu à lutter contre des hérésies, ils ont eu à inventer un langage pour faire comprendre la foi dans un pays qui était dans une culture grecque, donc étrangère à la Bible. Ils ont été les premiers à commenter et à étudier la Bible. C'est dans leur Église qu'on a trouvé les premières confessions de foi, dans les conciles. Voilà. Donc eux, ils sont vraiment, quand on les étudie, on est vraiment devant la gestation de la pensée chrétienne. C'est vraiment intéressant. Et il se trouve qu'au XXe siècle, il y a eu un très large retour en théologie, très grand mouvement de retour à ses sources. Et du coup, l'étude des pères s'est énormément développée. Et c'est cette étude qui a notamment beaucoup contribué au renouveau théologique et liturgique au moment de Vatican II. Alors, Irénée et Augustin, ils diffèrent notamment sur la place qu'ils accordent au péché d'Adam. Alors, Irénée, deuxième siècle après Jésus-Christ. Il était évêque de Lyon. Deuxième siècle, vous voyez, c'est tout près de Jésus, hein. On dit qu'Irénée a été en contact avec Polycarpe, qui était un disciple de Jean l'évangéliste. Deux générations seulement. Donc, il est mort en martyr à Lyon et il est connu surtout parce qu'il a été le premier grand théologien systématique de l'histoire de l'Église. C'est-à-dire qu'il a été le premier à faire autre chose que commenter l'Écriture pour penser la foi. Tout simplement parce qu'il s'est trouvé affronté à des hérésies gnostiques qui pullulaient au IIe siècle. Donc, les hérésies gnostiques, elles sont dualistes. Et Irénée, face à elle, a justement voulu montrer l'unité du mystère chrétien, l'unité contre le dualisme, l'unité de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, qu'il ne fallait pas séparer, l'unité des réalités matérielles et spirituelles, de l'humanité de Jésus et de la vie divine. Et donc, il a été conduit à penser l'ensemble du mystère dans une synthèse extraordinaire qu'on trouve en particulier dans ce grand livre, vous voyez le nombre de volumes, qui s'appelle « Contre les hérésies », le premier grand livre de théologie. Alors, quelle est son idée? Donc là, on parle de la conception du salut chez Irénée. Ben, sa grande idée, c'est que la perfection, elle n'est pas à l'origine, elle est au terme. Parfois, on dit la perfection, c'est l'origine. La création, le jardin d'Éden, et puis après, ça s'est gâté. Eh bien, lui ne pense pas ça. Il a osé penser une enfance de l'humanité, dans une perspective historique. Il dit, le premier homme est un homme enfant, encore rudimentaire. Oui, l'esprit habite en lui, mais à sa mesure. Il y a une lettre de Paul qui dit exactement ça. Peut-être que vous connaissez ce petit passage quand il dit à ses disciples, « Je vous donne du lait comme à des nourrissons. vous ne pouvez pas porter encore des vérités trop fortes. Ben, c'est un peu la même idée. Et donc, l'esprit et le verbe, bien sûr, ne cessent jamais d'être présents à l'homme, mais l'homme ne peut les recevoir que de façon progressive. Alors, je vous ai fait un petit schéma, ce n'est pas de moi, et j'aurai le même pour Augustin, vous allez voir les différences. Alors, un petit schéma pour illustrer sa conception du salut. En haut, vous voyez le Père et ses deux mains, le Verbe et l'Esprit, c'est-à-dire la manière dont il agit dans notre monde. Le Père crée, ça veut dire qu'à distance de lui, il pose la création, ici. Le monde, l'humanité, bref, un autre que lui. Mais tout cela est encore incoatif. Et donc cet autre qu'il crée, il est appelé à l'union avec Dieu, mais il faut qu'il en prenne conscience et qu'il faut qu'il assume cette liberté qui lui est donnée. Et ça ne peut pas se réaliser d'un seul coup. Alors ça va se construire progressivement. Et voyez pourquoi le trait discontinue. Vous voyez la flèche quand je le mets jamais ou pas? Oui. Ça, c'est le train pointillé.
On voit la souris bouger, ouais.
Voilà. Ça veut dire, ben, vous voyez, il y a une histoire humaine qui va qu'un cas. Il y a une enfance de l'humanité, une montée un peu lente, des erreurs, des fausses routes. Le mal peut s'y mettre. Il y a l'éloignement de Dieu, il y a des fautes, on avance comme on peut. Et puis, petit à petit, l'humanité arrive à une maturité suffisante pour que Dieu prenne une autre initiative, celle de se compromettre avec cette histoire de l'homme. Et c'est l'incarnation. La venue de Dieu lui-même dans notre histoire, qui a été préparée par toute cette alliance avec Israël. Et donc, en Jésus-Christ, l'humanité s'unit directement à Dieu. Et c'est pour ça qu'on a la flèche à double sens, qui va du Père à Jésus-Christ, parce que Dieu se donne en Jésus-Christ, et puis qui va de Jésus-Christ au Père, parce qu'en Jésus, dans son humanité, se donne à Dieu le Père, et puis qu'ensuite, par sa résurrection, il remonte directement au Père. Mais pour nous, l'histoire continue ici, laborieusement. Mais maintenant, elle sait où elle va, parce que le Christ nous a envoyé son esprit qui nous conduit. Et donc, l'accomplissement, il est à la fois déjà donné. C'est pour ça que la flèche, elle est en très plein. Avec quelque chose, avec Jésus-Christ, c'est déjà passé. L'accomplissement est déjà donné. Et en même temps, pas encore. Il y a encore des accidents de parcours. Mais on avance quand même et ça va jusqu'à la fin, à la récapitulation. Ça, c'est le grand mot emprunté à saint Paul, qu'on trouve en Éphésiens 1, 10. Récapitulation, anakephalaiosis, de Anna, vers le haut, et kephalai, la tête. On remonte vers la tête. Tout le monde sous un seul chef, le Christ, qui récapitule tout. Donc, vous voyez, on a une histoire de l'humanité, finalement, assez proche de ce qu'on conçoit aujourd'hui avec une évolution. Nos premiers parents, les premiers hommes, ont tout inventé, à commencer par le langage, c'est pas rien. Et en même temps, il y a une enfance de l'humanité, il y a une croissance. Alors, je vous mets quand même un texte d'Irénée. Vous allez voir que c'est impressionnant la manière dont ça se lit. Ici, on objectera peut-être. Et quoi ? Dieu n'eût-il pu faire l'homme parfait dès le commencement ? Qu'on sache donc que pour Dieu, qui est toujours identique à lui-même et qui est incréé, tout était possible à ne considérer que lui. Mais les êtres créés, en tant qu'ils ont reçu ultérieurement leur commencement d'existence, étaient nécessairement inférieurs à celui qui les a faits. En tant qu'ils ne sont pas incréés, ils sont au-dessous de la perfection. Car en tant qu'ils sont nouvellement produits, ils sont de petits enfants. Et en tant qu'ils sont de petits enfants, ils ne sont ni accoutumés, ni exercé à la conduite parfaite. Dieu pouvait, quant à lui, donner dès le commencement la perfection à l'homme. Mais l'homme était incapable de la recevoir, car il n'était qu'un petit enfant. Et c'est pourquoi aussi notre Seigneur, dans les derniers temps, lorsqu'il récapitula en lui toutes choses, vint à nous, non tel qu'il le pouvait, mais tel que nous étions capables de le voir. Il pouvait en effet venir à nous dans son inexprimable gloire, mais nous n'étions pas encore capables de porter la grandeur de sa gloire. Vous voyez cette belle idée d'enfance de l'humanité. Alors, le péché là-dedans. Eh bien, pour Irénée, l'homme, il est libre et responsable depuis le commencement. Mais, parce que sa liberté, c'est un aspect de l'image de Dieu en lui. Il est libre comme Dieu est libre. Mais dans cette liberté qu'avait l'homme, ben, il y avait le risque du péché. Et de fait, l'homme a péché. Alors, je vais revenir sur mon dessin d'avant. Et donc, le péché, ben, en fait, c'est ça qui introduit un élément de perturbation dans la montée de l'homme vers son accomplissement. En même temps, il ne modifie pas la ligne essentielle. Donc, le péché, ce n'est pas si grave que ça. Et quand Irénée parle du péché d'Adam, ben, il ne noircit pas le tableau. Il dit, après tout, ce péché était excusable. L'homme était encore un enfant. Il n'avait pas encore toutes ses facultés, alors il a été facilement trompé par le serpent. Voilà. Donc, vous voyez la conception du salut d'Irénée, une conception très positive, qui valorise l'histoire, une histoire dans laquelle il y a de la nouveauté. Et puis, le salut, ben voilà, il se déploie tout au long de cette histoire. Et puis, s'accompliquant, ben, quand l'esprit, c'est définitivement l'humanité et que toute chose se récapitule dans le Christ. Donc, dernière chose pour Irénée, vous voyez que dans cette option-là, même si l'homme n'avait pas péché, le Verbe se serait incarné. Parce que de toute façon, Dieu voulait nous rendre un jour pleinement participants de sa vie et que ça, il l'avait toujours voulu. Cette vision des choses aujourd'hui, donc Irénée est un père grec, elle a aujourd'hui sa place, y compris en Occident, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ça n'a pas été toujours le cas. Et je vais vous présenter l'option, j'irais presque très très différente, qui est celle d'Augustin. Mais est-ce que ça va là?
Il manque la parousie quelque part pour moi, mais je ne sais pas comment je le dessinerai.
Ben, la parousie, c'est le retour, c'est le deuxième avènement du Christ, c'est le retour de Jésus. Ben, ça serait la fin des temps quand tout sera récapitulé, ça sera au moment de la récapitulation. Alors Augustin, donc Irénée, un grand génie. Je vous rappelle quand même qu'il a été proclamé docteur de l'Église l'année dernière. Donc c'est pas du pipeau, hein, ce qu'on raconte là. Sérieux. D'ailleurs, attendez, je rajoute un truc. Voilà, c'est pas une petite option parmi d'autres. Hein. C'est Irénée. Et alors donc, je vous présente Augustin maintenant. Alors Augustin, à nouveau un génie. Alors lui, il arrive 200 ans après Irénée. Lui aussi a été confronté à des hérésies et vraiment, il a sauvé le christianisme d'un certain nombre de mauvaises compréhensions. Et sa théologie s'est complètement imposée en Occident. Et c'est lui qui va élaborer la notion de péché originel au IVe siècle. Mais pour l'instant, on va y revenir après. Mais pour l'instant, je vous montre comment il structure le mystère chrétien. Vous voyez que le schéma n'est pas le même. Création, en haut. Tout va bien. La création est en haut. L'homme est créé dans un état de béatitude, de parfaite union à Dieu. Voilà. Alors, problème, péché originel. Dans cette création parfaite, il y a la transgression. Ce que les gens appellent la chute, le péché originel, c'est radical. Sauf que dans l'Écriture, il n'est pas tellement question de chute, il est juste question de Adam qui n'a pas obéi à la parole. Dans le récit de Genèse 3, on ne parle pas de chute. Mais bref, l'homme est en très mauvaise situation, et donc il va falloir le tirer d'affaire. Il faut réparer. Alors vient, Alors vient Jésus-Christ. Et en symétrie du péché originel, on a Jésus-Christ, on a le remède. Jésus, qui va nous faire remonter vers la gloire, ici. Donc, on remonte vers la gloire, et Jésus remonte vers la gloire, et il entraîne l'homme avec lui. Et du coup, on va se trouver dans une situation qui est symétrique de l'origine, mais encore plus beau. Donc, vous voyez la grande difficulté de cette théologie, excusez-moi, j'ai été trop loin, que vous la voyez, la difficulté de cette théologie.
Le mal est validé.
C'est passif. Parce que tout est fait par le Christ.
Comment ?
On n'a rien à faire. Le Christ nous a sauvés, on est dans la gloire. Tralala.
Ouais, mais quel est
il n'y a plus l'Esprit Saint. Enfin, là, il y avait du bidirectionnel avant avec le Verbe, l'Esprit. Là, on ne voit plus.
Non. Et ben, la grande difficulté, c'est que qu'est-ce qui commande le salut? C'est le péché. Et là, il y a quand même une limite.
C'est-à-dire que c'est
l'homme pécheur qui devient premier. Premier par rapport au Dieu sauveur. C'est-à-dire que le don de Dieu en Jésus, il est subordonné au mal. Donc, cette conception, elle donne au péché originel un poids énorme. Et si on voit les choses comme ça, et bien on va tout faire commencer, le catéchisme, les homélies, les professions de foi. On fait tout commencer par le péché originel. Et en Occident, c'est ce qui s'est produit pendant très longtemps. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, ma sœur, mais en Occident, c'est comme ça. Et si vous lisez la confession d'Augsbourg chez les réformés, ou le concile de Trente qui lui répond, tout commence par l'impuissance de l'homme déchu. Vous voyez, Irénée, enfance de l'humanité qui n'est pas en état encore d'assumer, là, c'est l'homme déchu. Je vous lis un petit bout. Tous les hommes ayant perdu l'innocence dans la prévarication d'Adam, devenus impurs, ils étaient à ce point esclaves du péché qu'ils ne pouvaient se libérer ou se relever de cet état. Ça, c'est la conclusion de Dieu. Alors évidemment, ouf, on est dans un état terrible, ouf, Jésus vient, mais il vient comment? En victime propitiatoire, je cite encore, c'est-à-dire pour racheter tous les hommes. Et donc dans cette logique-là, Jésus, on le pense comment? On le pense comme sauveur, réparateur, rédempteur, et on le pense en fonction du mal, du péché, de la mort. Et on aboutit souvent à un christianisme qui est obsédé d'expiation, complètement doloriste. Et il se trouve qu'en Occident, la tradition d'Augustin l'a longtemps emporté. Aujourd'hui, on valoriserait plutôt celle d'Irénée. Des gens comme Besançon, comme Sesboué, sont des grands théologiens français de l'âge d'or de la théologie des dernières années, sont plutôt sur la ligne d'Irénée. Irénée, il pense d'abord déification, divinisation, vous voyez? Il pense d'abord destinée. Augustin, il pense d'abord péché originel. Alors attendez, je caricature, hein, parce que ils tiennent les deux. Mais voyez, l'insistance n'est pas au même endroit. Et de fait, il y aura toujours des débats. Je vais vous donner un exemple de débat. Parce que vous voyez que la question qui traverse ces débats, c'est d'abord la conception qu'on se fait du salut, mais c'est aussi le motif de l'incarnation. Pourquoi est-ce que Dieu s'est incarné? Et selon l'une ou l'autre posture, eh ben on va dire Dieu s'est incarné pour réparer la faute d'Adam et nous tirer du péché. Où on dira, bah, Dieu s'est incarné pour nous donner pleinement le salut, faire de nous des fils et nous unir définitivement à lui. Il y a deux thèses, et les deux sont légitimes. On peut même se demander, est-ce que Dieu se serait incarné en ce péché originel? Cette manière de poser la question. Alors, au Moyen-Âge, bah, les querelles vont reprendre, elles n'ont jamais cessé, hein, très importantes dans l'Antiquité, elles vont reprendre au Moyen-Âge, et on va retrouver les deux lignes, même chez nous. D'habitude, c'est plutôt Irénée-Orient, Augustin chez nous. Ben, au Moyen-Âge, on va trouver les deux thèses à l'intérieur même de chez nous en Occident. Et ça fera la ligne Thomiste, donc c'est saint Thomas d'Aquin, ses successeurs, et une ligne augustinienne. Et donc, pour Thomas d'Aquin, si on demande pourquoi est-ce que Dieu s'est incarné, eh ben, il va répondre, la convenance de l'incarnation, c'est la rédemption. Donc, vous voyez, je vous lis. Si l'homme n'eût pas péché, Dieu se serait-il incarné? Réponse, quoique Dieu ait pu s'incarner sans que le péché existe, cependant, il est plus convenable de dire que si l'homme n'eût pas péché, Dieu ne se serait pas incarné. Puisque dans l'Écriture sainte, la raison que l'on donne partout de l'incarnation se tire du péché du premier homme. Donc Thomas dit, c'est parce que l'homme est tombé dans le péché que Dieu est venu le sauver. C'est la raison de l'incarnation. Alors saint Thomas, c'est plutôt les dominicains. Les franciscains, Moyen-Âge, pense différemment. Et 40 ans après Thomas, on a un franciscain, un écossais, Jean Duns-Scott, qui dit, ben pas du tout. Bien sûr que Jésus nous a tirés du péché en venant sur cette terre, il n'y a pas de doute, mais de toute façon, ce sera incarné. Parce que Dieu est amour, amour qui se répand, qui veut se partager, indépendamment du péché. Pourquoi est-ce que Dieu a créé pour se donner un partenaire auquel il se donnerait tout entier et avec lequel il partagerait sa vie? Et il dit, ben l'incarnation, c'est l'œuvre la plus grande et la plus belle de toute l'histoire du salut. C'est l'idée originelle de Dieu d'unir toute la création à lui-même dans la personne de son Fils. Et donc, elle est conditionnée par rien, cette idée. Donc, vous voyez, Duns-Scott, lui, va développer une théologie de la gratuité, de la liberté de Dieu. Voilà. C'est dans la logique du don de Dieu qu'il se donne lui-même. Ça, c'est plutôt la ligne scottiste. Donc, plutôt dans la ligne d'Irénée. Voilà. Alors, qui a raison? Ben, en fait, c'est indécidable. Parce que de toute façon, il y a eu péché et que de toute façon, le Christ nous sauve du péché. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'on a le droit de penser aussi que le don de Dieu en Jésus nous vient de plus loin. Et qu'il n'est pas simplement réparation. Et je vous donne un petit mot de Besançon dans Dieu sauve, pour vous donner envie de lire ce livre. Dès lors, Jésus devra être compris dans la logique de ce Dieu qui donne et qui redonne. Au commencement, il n'y a pas ma misère, mon péché, mes refus, et Dieu qui cherchera une réponse, une réparation adéquate. Au commencement, il y a un Dieu qui aime et qui choisit, qui donne et qui pardonne, qui crée pour se lier. Au point de départ, il n'y a pas moi, mes états d'âme, mon besoin de salut, ni le monde et ses ténèbres. Au commencement, il y a le Verbe, chantait Saint Jean. La parole de Dieu qui crée et qui recrée, Dieu a toujours l'initiative. Et il dit un petit peu plus loin, belle formule, le salut n'est pas le péché réparé, c'est le péché qui est le salut refusé. Voilà. Donc, deux manières de comprendre le salut. Et qui ne donnent pas, vous voyez, la même place dans leur conception au péché. Irénée, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la liberté de l'homme, mais ça ne perturbe pas la ligne essentielle. Augustin, la chute radicale, on ne peut plus s'en sortir, il faut que Dieu vienne réparer. Je caricature un peu, hein, mais...
Mais du coup, là, il ne définit pas ce qu'est le salut, en fait. Il est par la négative, ce qu'il n'est pas. Besançon, dans sa phrase.
Bah, le salut, si. C'est le projet de Dieu de se lier à nous et de nous partager sa vie. Non, après, il y a tout le livre. Moi, j'ai pris quatre lignes. Hein. Besançon, si vous vous rappelez, c'est le sauvé deux, le sauvé vert. Donc, il le définit avant.
Oui, c'était juste dans cette seule phrase-là qui est belle. Mais, ok, en effet, la phrase d'avant, c'était dit. Voilà, le slide d'avant.
Voilà, donc vous voyez, on est dans la même idée de se dire attention de ne pas être trop enfermant dans notre manière de penser le salut. Il y a plusieurs façons de le faire, et déjà, juste après Jésus, dans les quelques siècles suivis, déjà, alors qu'ils avaient beaucoup de choses en commun, déjà, il y avait des interprétations qui pouvaient être différentes. On comprend bien qu'il faut tenir les deux et que les deux sont justes, mais qu'il faut se méfier de pas être, de se crisper sur un aspect puis de pas tenir l'autre ou d'être trop excessif dans sa manière de penser les choses. Irénée, c'est très optimiste. Augustin, plus noir. Voilà. Alors, si ça vous va, à moins que vous ayez des questions. Attendez, je vais arrêter de partager, parce que non, je ne vois pas, en fait, c'est tant mieux qu'on ne partage pas. Ça va? Oui? Continue?
Mais après, Jésus, dans l'évangile, parfois, enfin, je pense à la parabole de Lazare et du riche aussi.
On en parlera de cette parabole. On en parlera de cette parabole. Oui, oui. De toute façon, c'est ce que j'ai toujours dit, hein. Très attention de ne pas prendre un petit extrait d'un truc parce qu'on peut défendre tout et son contraire avec juste un verset. Et dans l'évangile, il y a souvent plein de choses qui sont complètement contradictoires. Donc, il faut retenir la ligne d'ensemble.
Oui, mais la ligne d'ensemble, justement, ouais. Si on la cherche, la ligne d'ensemble, il y a quand même beaucoup de conditionnels. Il y a beaucoup de conditions pour mériter le salut. Il y a beaucoup de... Enfin oui, il y a rien que l'étape de la loi, même dès l'Ancien Testament, il y a beaucoup de conditions. Alors, moi, je trouve, voilà. Quand on le relit, je viens de le relire ce week-end, Luc, intégralement, et ça me saute aux yeux, moi.
C'est intéressant parce qu'on va voir Romains 5, justement, sur la loi. Donc, on va le voir tout de suite. Alors, le péché originel. Alors là, vous ne m'en voulez pas, j'espère que je vais essayer même de simplifier un petit peu par rapport à tout à l'heure, par rapport à 2 heures. C'est un petit peu technique. En même temps, je le traite quand même parce que la question du péché originel, c'est une notion sur laquelle on peut avoir des idées très confuses. C'est une notion qui est très, très complexe, qui a suscité des discussions énormes dans l'Église. Et pourtant, c'est pour ça que j'ai quand même essayé de la clarifier un petit peu. On en a souvent des idées un peu caricaturales. Et en même temps, c'est une question très importante parce qu'elle cherche à répondre à une question qui est « Pourquoi est-ce qu'on est sous l'empire du péché et de la mort ?» Alors que Dieu a voulu une création qui était bonne. Et donc, c'est une doctrine qui essaie de rendre compte de cette solidarité entre nous, tous les hommes, cette solidarité qu'on expérimente dans le mal. Alors, déjà, je commence par dire qu'il y a une représentation du péché originel. Excusez-moi, je me complique. Il y a déjà une représentation du péché originel qui est vraiment inacceptable et qu'il faut évacuer de nos esprits, qui est que la faute d'Adam serait la cause de tous nos malheurs. Alors, je vous la fais un peu courte. L'homme aurait été dans un état de parfait bien-être dans le jardin d'Éden, sans travail, ni souffrance, ni mort. Dieu l'aurait soumis à un test un peu arbitraire. L'homme et la femme se seraient fait avoir en se laissant tromper par un serpent. Et à cause de leur faute absurde, on serait privé du bonheur de tout avoir et de ne rien faire, la souffrance et la mort étant la punition de Dieu. Bref, toutes nos misères actuelles s'expliqueraient par la désobéissance d'Adam et Ève. Et ça, c'est l'idée qu'on se fait parfois du péché originel. Je ne sais pas si c'est l'idée que vous en faites, mais c'est quelque chose qui traîne pas mal. Et en même temps, nous on se dit, on se refuse à croire des choses pareilles. Et en fait, on a raison. C'est exorbitant d'expliquer notre situation actuelle à partir d'une catastrophe originelle qui serait le péché d'un premier couple humain. Donc, cette vision des choses, on l'oublie. Et on va commencer par élaguer et par reprendre le problème à la base. Alors, première chose, le péché originel dans l'Écriture. Alors, deuxième chose que je voulais vous dire. Le péché originel, vous auriez pu vous dire, on aurait dû le traiter la dernière fois avec le cours sur le péché avec Genèse 3. Sauf que le péché originel, ce n'est pas du tout Genèse 3, c'est Romains 5 et c'est Saint-Augustin. C'est pour ça qu'on le traite maintenant. Et c'est très en lien, et c'est à comprendre, très en lien avec un salut universel, le péché originel. Première remarque, donc. La Bible n'emploie pas l'expression de péché originel. Jamais. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Jésus ignorait l'expression. Quand on a commenté Genèse 3, on a été bien gardé par les péchés originels, parce qu'on n'entend jamais dans ce récit, il n'est jamais question de péché originel dans ce récit au sens où nous on l'entend, c'est-à-dire une faute qui rejaillirait sur les enfants, une punition, un péché hérité, etc. Ça, c'est absent du récit de Genèse 3. Le récit de Genèse 3 nous parle de quoi? D'un surgissement du mal inattendu, un surgissement qui se trouve tout près de la création. Et il nous montre que ce premier mal, c'est pas d'abord la désobéissance de l'homme, c'est d'abord le mensonge d'un serpent qui vient déformer l'image de Dieu. Et puis après, il décrit le péché, Genèse 3, et il en parle comme ce qui éloigne de Dieu, un péché qui est méfiance de Dieu, refus de la vie telle que Dieu l'a vue. Donc, première remarque, donc, pas de notion de péché originel dans la vie. Pas l'expression de péché originel. Deuxième remarque, après le récit de Genèse, il est quasiment plus jamais question dans la Bible du péché des origines, du péché d'Adam et Ève. C'est très intéressant quand on voit la place que ce péché a pris dans le discours ensuite, notamment dans le catéchisme. Alors, évidemment, péché des origines d'Adam et Ève, et on est question de Romains 5, le chapitre 5 de la lettre aux Romains de Saint Paul. Et c'est dans ce texte qu'on peut voir les premiers pas vers une théologie du péché originel. Mais l'expression de péché originel n'y est pas non plus. Et vous allez voir que l'accent de ce texte, l'insistance, en fait, elle est ailleurs. Donc, on va lire ce texte, c'est là où ça va être un petit peu technique, mais je crois que je vais un petit peu résumer. Et là, vous accrochez vos ceintures, parce que Paul, déjà, d'une manière générale, n'est pas facile à lire. Ça, c'est vrai, je partage l'écran. Là, je pense que ça, c'est bon. Non, c'est celui-là, pardon. Partager. Non. Je vais mettre le texte. Le péché originel. On va essayer de trouver l'idée générale, pas de s'apesantir sur les détails. D'abord parce que Paul a un tempérament un peu bouillonnant, donc ça part un peu parfois dans plein de directions. Deux, qu'il avait une formation rabbinique, donc souvent il tourne autour d'un thème et nous on n'est pas familiarisé avec cette façon d'entendre les choses. Troisième chose, il dictait. Donc, il y a des lettres, il y a des phrases qui sont parfois interrompues, parfois un petit peu bancales. Donc, ça ne facilite pas les choses. Ce qui est intéressant, déjà, c'est le verset 12. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes du fait que tous ont péché. Vous voyez, c'est déjà un peu très simple. Ce qu'on peut remarquer, c'est que déjà, Paul établit un rapport direct ici entre le péché d'Adam et la mort. Le péché d'Adam, dont je vous ai dit qu'on n'en parlait plus beaucoup après dans la Bible, hein, et Paul le fait là. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Donc, il est en train de dire, ben, depuis qu'Adam a péché, la mort règne sur le monde. Et là, c'est le point de départ de la future doctrine du péché originel, d'Augustin. C'est le point de départ d'Augustin. C'est pas Genèse 3. C'est ça. Je passe les deux versets suivants qui sont inintelligibles. On peut quand même expliquer, on y reviendra peut-être sur la loi. La suite est plus claire. Alors, la suite. Et elle va nous montrer ce que Paul veut faire en vrai dans ce texte. Vous allez faire attention au combien plus. Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Si par la faute d'un seul, c'est Adam, hein, la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. Et il n'en va pas du don, le don de Jésus-Christ, comme des conséquences du péché d'un seul, le péché d'Adam. Le jugement venant après un seul péché aboutit à une condamnation. L'œuvre de grâce à la suite d'un grand nombre de fautes aboutit à une justification. Si en effet, par la faute d'un seul, la mort a régné du fait de ce seul homme, Adam, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Ah, je suis mauvais. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Voilà. Ainsi donc, comme la faute d'un seul, Adam, a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul, Jésus-Christ, procure à tous une justification qui donne la vie. Alors, verset 19, intéressant. Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. La loi, elle est intervenue pour se multiplier à la faute. Vous voyez, Anne, c'est pas la loi qui sauve, c'est pas le fait d'accomplir la loi, de respecter la loi à la lettre qui sauve. La loi est intervenue pour que se multiplie à la faute. Ce que ça veut dire, c'est que la faute, elle, la loi, elle désigne le péché.
Donc, la loi quoi ?
Elle désigne le péché. Elle désigne où est le péché. Donc à partir du moment où il y a la loi, le péché apparaît. Donc elle est utile. Elle montre où est le péché, mais elle ne sauve pas. Alors, je relis, la loi, elle est intervenue pour se multiplier à la faute, mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce régnerait par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez, quand je vous dis que c'est compliqué, il faudrait vraiment se poser, le lire tranquillement, et puis passer 2 heures sur ce texte. Ce que je veux vous dire, c'est que la pointe de ce texte, c'est quoi? C'est l'universalité du salut en Jésus-Christ. Ce que veut faire Paul, là, c'est montrer que tous les hommes, tous, la multitude, qu'on entend dans le texte, tous, la multitude, sont sauvés par Jésus-Christ et par lui seul. Par l'obéissance, par l'œuvre de Jésus, la multitude sera constituée juste. Elle recevra la justification qui donne la vie. C'est Jésus-Christ qui sauve, dit Paul. C'est lui qui ramènera à Dieu l'humanité perdue. L'humanité qui est sous l'emprise du péché et de la mort. Et c'est là où, au passage, il dit, la loi, elle suffit pas. Elle démasque le péché, elle le révèle, mais elle a son rôle, mais elle ne le sauve pas. C'est Jésus qui sauve.
Mais alors moi, sur la phrase 20, là, effectivement, elle me pose problème et je ne suis pas. Et en plus, j'étais sur une conférence Foi et Science, là, ce jeudi, au Théâtre de l'Archipel du Pôle Mission Paris, où il y avait Kylin. Et ouais, j'ai du mal hein, sur cette phrase-là. Pour moi, la loi d'amour, elle est universelle et c'est peut-être le principe mystère.
Alors, Anne, en fait, on a un truc qui est super compliqué. J'essaye de dérouler mon truc et puis
okay, après,
on revient si vous voulez. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le but de Paul, c'est de montrer l'universalité du salut en Jésus-Christ. Et il nous dit, tous les hommes seront sauvés. La loi, elle est impuissante. Tous les hommes seront sauvés. Mais si Jésus nous sauve tous, ça veut dire qu'il y a une solidarité entre les hommes. Si on est tous en besoin de salut, Ça veut dire qu'on était tous ensemble perdus, en quelque sorte. Tous, en quelque sorte, esclaves du péché, parce qu'on a tous besoin d'être sauvés. Et comment ça se fait qu'on était tous perdus? Et c'est là où il amène Adam. Et bien parce qu'un seul, à l'origine de l'humanité, avait transgressé et perdu l'ensemble de ses descendants. Vous voyez, on revient au verset 19. Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse, de même aussi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Oui, pour bien comprendre l'enseignement de Paul, il faut voir le parallélisme entre Adam et le Christ. Et donc, mettre toute l'humanité sous l'étendard d'Adam, c'est une façon de dire que toute l'humanité va se trouver sauvée par le Christ. C'est un peu, vous rappelez le cours de la dernière fois, la même chose que le parallèle entre Genèse 3 et Philippiens 2. Jésus, c'est le nouvel Adam. Voilà. Le premier Adam était désobéissant. Philippiens 2, le Christ a été obéissant jusqu'à la croix et Dieu l'a exalté, etc. Voilà, c'était l'anti-Genèse 3. Et bien là, c'est un peu la même chose. Jésus, c'est le nouvel Adam qui retourne la situation. On était tous solidaires dans le péché, tous éloignés de Dieu, de par un seul, à l'origine de l'humanité. Et maintenant, on est tous solidaires dans l'amitié de Dieu en Jésus de par son obéissance. Sauf que, vous voyez que les deux solidarités, dans le mal ou dans la vie, dans le salut, n'ont pas la même valeur. Combien plus, deux fois, combien plus un seul vous a valu le malheur, combien plus un seul vous vaudra la justification, la grâce, la vie. Le salut qui est offert en Jésus, il est sans commune mesure avec la misère dans laquelle on était. Donc dans ce texte, il faut voir, c'est qu'on est tout de suite déporté sur l'œuvre du Christ. C'est vrai qu'on parle du péché des origines, mais le fond, il nous déporte tout de suite sur l'œuvre du Christ. Et donc, si on focalise sur le verset 12, qui nous parle du péché d'Adam, eh ben, c'est détourner le texte de Paul. Il faut voir tout le reste. Et tout le reste nous dit, ce qui compte, c'est la grâce du second. Plus, combien plus que le péché du premier. Voilà. Donc, si je résume, dans ce texte, qui est à l'origine de la doctrine du péché originel d'Augustin, on va y revenir là maintenant, dans ce texte, ce que Paul défend, c'est l'université du salut. Et où il nous dit, toute l'humanité est solidaire. Voilà, alors, est-ce que vous voulez que je revienne sur la loi?
En fait, c'est très clair pour tout le reste, mais là, et ça ne regarde que moi, mais je me permettrai de le comprendre et de considérer qu'il manque, la loi, elle, est intervenue pour que ne se multipliât pas la faute. Et ouais. De même qu'enfant, il m'est arrivé de reprendre des énoncés de maths en prouvant des erreurs, j'ai l'impression qu'il y a une erreur. Le verset 20, pour moi...
Il est caché pour moi.
La loi, elle, est intervenue pour que se multipliât la faute, est écrit.
Ben voilà.
Ben pour moi, c'est pour que ne se multipliât pas la faute que la loi est intervenue.
Il faut comprendre ce que vous voulez dire. Mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Le sens de cette phrase, tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de faute, il n'y a rien à transgresser. À partir du moment où la loi indique le chemin, on sait où est le péché. On sait le péché dès qu'il y a transgression.
Mais elle a pour objectif de limiter la progression de ce péché, puisque pour moi, la loi, c'est un peu le mystère, c'est l'amour qui vint.
Mais je comprends ce que vous voulez dire.
Et pour moi, il y a une erreur de traduction quelque part, où c'est dicté, ils ont oublié un mot.
Écoutez ce que je vous dis. La loi, elle désigne le péché.
Oui, so what?
Donc, ce que veut dire Paul, mais mettez-vous dans sa tête à lui. Qu'elle veut dire Paul, c'est qu'avant, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a de péché, puisqu'il n'y a pas de loi. À partir du moment où il y a la loi, elle désigne, elle révèle, elle démasque le péché.
C'est pas se multipliant, c'est afin que l'on prenne conscience de la faute.
On peut dire exactement les choses comme ça.
Parce que multiplier, elle est pas plus, la faute n'est pas plus grande parce qu'il y a la loi.
Non, pas du tout. La faute n'est pas plus grande, on en a conscience.
Mais exactement. On en prend conscience.
Exactement.
C'est ça que ça veut dire. Le mot multiplier n'est pas ajusté.
Bah, c'est le mot de Paul, donc je reviens pas dessus. Mais voilà.
Donc, bah, ça revient à un contresens à un moment donné par rapport à la traduction, effectivement, parce que si la loi, son objectif, c'est de faire croître la faute, ça la désigne, c'est certain, mais multiplier, c'est ce que ça veut dire. Donc je suis triste sur le terme, mais pour moi, ça résulte en un contresens.
D'accord, mais je vous explique le contresens qu'il ne faut pas faire. Il ne faut surtout pas dire parce qu'il y a la loi. Le péché est arrivé dans l'existence de l'humanité parce qu'il y avait la loi. Oui, au sens qu'à partir du moment où il y a eu la loi, on a pris conscience du péché.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et que tant qu'il y a de loi, bah, il n'y a pas de conscience du péché. Puisqu'il n'y a pas de loi, il n'y a rien à transgresser.
Je comprends le point hein, voilà, donc, que vous soulignez.
Je vais vous dire, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ouais. Non, on ne va pas y revenir parce qu'en plus, ce n'est pas le point principal.
Non, tout à fait. Tout le reste, c'est très clair.
Mais,
et dans toutes les traductions, c'est multipliant.
Pardon ?
Dans toutes les traductions, c'est multipliant.
Je regardais à ELF, c'est la même, ouais.
Oui, oui, non. Alors, il se trouve que Anne a raison, il y a une erreur de traduction. Mais Augustin, on va le voir maintenant, mais j'en parle pas parce que finalement, on finit dans des détails où on va se noyer. Déjà, on peut se noyer. C'est que Augustin, quand il a lu ce texte, il l'a lu avec une erreur de traduction. Mais ce n'était pas à cet endroit-là. Il a fait une traduction latine qui a fait une erreur de traduction et qui est cause en particulier d'une partie de sa doctrine. Mais bon.
Mais pas sur cette phrase en particulier.
Pas sur cette phrase-là, il est d'accord là-dessus.
Okay.
Alors.
Merci.
J'en viens au rôle d'Augustin. Alors, Augustin. Donc, c'est à partir, vous avez bien saisi, ce n'est pas Genèse 3, hein. Ce n'est pas en commentant Genèse 3 que Augustin est... C'est à partir de là, de ce texte de Romains 5, et notamment de ce verset 12, qu'il échafaude sa doctrine du péché originel. Avant lui, il n'y a pas de théologie du péché originel. Alors, Augustin, je prends des pincettes parce que je vais exercer un certain esprit critique, parce que ce n'est pas moi, hein. La théologie exerce un certain esprit critique par rapport à la doctrine, mais attention, il ne faut pas perdre de vue que c'est un grand génie, que sa doctrine, elle dit des choses très importantes sur cet aspect de notre vie, mais que c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a certains aspects de la doctrine qui posent un peu de problème. Voilà. Mais que ça ne remet pas en cause le fond. Alors, l'expression de péché originel, ben voilà, la première fois où on la trouve, c'est dans les confessions. Dans ce petit texte, je m'en allais vers l'infernal séjour. Il se trouve qu'à ce moment-là, Augustin était très très malade. Il a cru qu'il allait mourir. Il n'était pas converti encore. Et voilà ce qu'il dit. Je m'en allais vers l'infernal séjour, donc les morts, portant par-dessus le péché originel qui tous en Adam nous lie à la mort, le péché originel, une copieuse et lourde charge, tout le mal commis par moi, envers toi, envers moi-même, envers autrui. Vous voyez, dans cette petite phrase, il est question d'un péché originel qui nous lie tous à la mort, tous, qui est à distinguer du mal commis personnellement par Augustin, le mal qui est son œuvre, le mal commis volontairement. Un mal qui nous lie tous, en plus de ce mal qui est commis personnellement par moi. D'accord ? Alors, d'où sort cette idée de péché originel ? Et vous allez voir que c'est souvent comme ça en théologie. Ça naît à la fois de l'expérience propre, là en l'occurrence, son expérience de croyant, et puis aussi des hérésies qu'il a dû combattre. Et quand il faut les réfuter, eh ben, on est obligé d'affiner ses arguments et d'en trouver. Et quand Augustin était jeune, eh ben, il a côtoyé justement ces systèmes dualistes à travers les manichéens. Et il est resté 9 ans avec eux. Et pour les manichéens, la matière est mauvaise. Et pour les manichéens, si l'homme est pécheur, c'est pas vraiment de sa faute. C'est parce que malheureusement, il a un corps. C'est une créature matérielle. Et que donc, il n'est pas vraiment responsable de ce péché. C'est quelque chose qui pêche en lui, mais contre lequel il peut rien. C'est une théorie qui, en fait, dépouille l'homme de sa liberté. C'est comme si l'homme était manipulé par une substance étrangère. Et là, Augustin réagit. Il va quitter les manichéens, pour d'autres raisons aussi, mais il réagit et il dit « Mais non, pas du tout. La responsabilité et la liberté humaine, c'est quelque chose qu'il faut tenir. C'est très important. Et pourquoi est-ce qu'il peut capable de dire ça ? Pourquoi est-ce qu'il est capable de dire ça ? Parce que c'est son expérience. Il s'est converti. C'est une expérience extrêmement forte. Et il a vu que dans cette conversion, sa liberté était vraiment pleinement engagée. Ça avait été vraiment un choix quand même à un moment. Donc il dit il faut tenir la liberté de l'homme. On est responsable de nos actes. Et puis voilà qu'à la fin de sa vie, il va rencontrer un autre personnage et une autre hérésie, qui est l'hérésie pélagienne. Pélage, c'était un moine qui avait prêché dans le bassin méditerranéen. Et c'est ce combat avec Pélage que là, je vais finir par être condamnée par les conciles. Et c'est cette controverse avec Pélage qui va finalement donner la forme définitive de sa doctrine du péché originel. Pélage, ben justement, c'est l'homme de la liberté, mais à un point qui fait que la grâce en devient quasiment inutile. Il dit tout le monde peut être vertueux par la seule force de la volonté. Dieu ne demande rien d'impossible. Donc, en fait, on peut être vertueux à la force du poignet. Et là, Augustin dit non, pas du tout. Oui, l'homme est libre, il est responsable de ses actes, mais en même temps, il a absolument besoin de la grâce de Dieu. Parce que le péché nous précède. C'est ça, le péché revient. Le péché nous précède. Et il est parfois plus fort que nous. Donc, vous voyez, c'est vraiment deux conceptions de la situation de l'homme devant Dieu. Celui qui est capable de s'en sortir tout seul et celui qui a besoin de la grâce de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'Augustin dit ça? Lui qui avait prêché la liberté. Pourquoi est-ce qu'il est capable de prêcher la grâce à ce point-là? Vous savez qu'on va l'appeler le docteur de la grâce. Hein, c'est vraiment l'homme de la grâce, Augustin. Et ben, c'est à nouveau son expérience spirituelle qui l'amène à penser ça. Parce que quand il s'est converti, oui, il a fait un choix, mais en même temps, il s'est vraiment heurté à ses limites. Et il a vécu un combat spirituel extrêmement fort. Et il a compris que cette conversion, même si c'était aussi un choix, c'était d'abord l'œuvre de la grâce de Dieu en lui. Et son mouvement, ça sera toujours, et si vous lisez les confessions, c'est à chaque ligne, ça sera toujours de rendre grâce pour ce que Dieu a fait en lui. Double expérience. Oui, j'ai un choix à faire. Oui, j'ai des actes à poser. Et en même temps, c'est Dieu qui travaille mon cœur et c'est Dieu qui permet les choses et la grâce est première. Et donc, Augustin, il va devoir affirmer deux choses. C'est ça son but. L'importance de la liberté et la nécessité de la grâce. Vous voyez que c'est pas facile à articuler. Pour dire, c'est un petit peu contraire même. Et ben, la doctrine du péché originel, elle essaye de conjuguer les deux en disant, oui, on est libre, responsable de nos actes, et en même temps, on est pris dans un monde de péché. On est marqué par un mal, par un péché qui nous dépasse depuis Adam et à cause de sa faute, depuis le début. On a un texte un peu de ça pour vous montrer dans quel état il est. C'est moi qui voulais et moi qui ne voulais pas. Moi et moi, un seul et même être. Je n'étais ni en plein à vouloir, ni en plein à ne pas vouloir. Je me trouvais ainsi aux prises avec moi, mon être même disloqué. Et cette dislocation qui se faisait malgré que j'en eusse rendait manifeste l'existence non pas d'une âme autre en nature que la mienne, mais d'un châtiment de mon âme. Et voilà la phrase importante. Dès lors, donc, c'était l'ouvrage non point de mon être personnel, très important là, mais du péché logé en moi, en punition, parce que j'étais fils d'Adam, d'un péché commis avec plus de liberté. Voilà ce que va dire Augustin. Par la faute d'Adam, on a tous contracté cet état de désordre intérieur, d'incapacité à faire le bien de manière régulière. Et ça, c'est ce qu'on appelle le péché originel. Et ça, seul le Christ peut nous en libérer. On a besoin de la grâce. On a besoin de nous sauver. Alors, voyez le problème. Et c'est là où on va commencer à avoir notre esprit critique. Jusque-là, je crois qu'on est d'accord. Mais comment est-ce que le péché de l'un, le péché d'Adam, peut être le péché de tous? Et comment est-ce qu'il peut être le péché des petits-enfants? Parce que Augustin les considère eux aussi marqués par la faute originelle. Comment est-ce que le péché d'Adam peut être notre péché? Et Augustin répond, ça passe par la génération. La génération charnelle, le fait d'engendrer des enfants. De parents à enfants. Donc, c'est une transmission par propagation. Le péché se propage de parents à enfants. Et concrètement, il est transmis comment? Par la concupiscence qui accompagne tout acte de génération.
Oh, je suis dégueulasse.
Augustin donne une place importante à cette concupiscence charnelle. C'est-à-dire, la concupiscence, c'est la convoitise de la chair vers les plaisirs. Et à nouveau, bah, c'est son expérience qui parle. Parce qu'il faut savoir vous lisez les confessions aussi. Bah, vous le voyez. C'est un homme qui a été très longtemps complètement esclave de ses passions. Il faisait l'expérience qu'il n'arrivait pas à maîtriser ses désirs, à tel point que l'idée de chasteté a été un obstacle pendant très longtemps à sa conversion. Tellement c'était une idée, quelque chose qui pouvait lui coûter. Et donc pour lui, bah, l'acte de génération, il est entaché de cette concupiscence, de cette convoitise qui est négative. En tout cas, vous voyez qu'à partir du moment où Augustin dit, ben, on est tous dans un état de péché, ça c'est merci Adam qui a péché, qui nous a transmis ce péché, et il l'a transmis comment ? Par génération. On est dans une transmission quasi biologique du péché originel. Alors, évidemment, oui. Alors,
je termine. C'est à Saint-Augustin que l'Église voit du péché dès qu'il y a du sexe.
Eh bien voilà, c'est ce que j'allais dire. Conséquence, dépréciation de la sexualité, dont on n'est peut-être pas complètement sorti, parce que le péché, c'est une maladie quasiment sexuellement transmissible ici. Alors, je vous dis tout de suite que l'Église n'a jamais confirmé dogmatiquement, c'est-à-dire de manière officielle, la transmission par génération. Deuxième conséquence, la nécessité du baptême des petits-enfants. Ce qu'on est avec le péché originel, ben c'est indispensable qu'ils soient lavés par le baptême de ce qu'ils ont contracté par génération. Troisième chose, l'idée que la masse des hommes est une masse damnée. Augustin n'hésite pas à parler ainsi de massa damnata, puisqu'on est tous sous le péché d'Adam, tous hérités du péché. Et puis dernière chose, bah de cette conception-là, sont nés tous les débats sur la liberté et la grâce. Si on est sauvé par la grâce de Dieu, où est notre liberté, etc. Ouais. C'est un peu ce que disait Anne. Là. Si on est sauvé par la grâce, où est notre liberté ? Donc, où sont nos mérites ? Voilà. Donc, je schématise un petit peu, mais quand on durcit la doctrine du péché originel, voilà où on arrive. Donc là, il faut aller un pas plus loin. Cette doctrine du péché originel, elle dit des choses importantes. Et quel sens elle a encore pour nous aujourd'hui ? C'est ça que je voudrais voir. Et puis après, on pourra poser nos questions. Vous voyez, on n'est pas dans une situation facile hein, par rapport à la doctrine d'Augustin. Est-ce qu'on peut encore recevoir l'idée d'un péché des origines ? L'idée qu'un péché dont on n'est pas responsable pèse sur nous aujourd'hui ? Que le bébé qui naît soit né de la faute originelle, pas si simple. Première chose à dire, impératif, il faut sortir d'une approche historicisante des choses. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire rentrer dans l'histoire des choses qui n'appartiennent pas à l'histoire. Ce qui a faussé la théologie du péché originel, c'est de vouloir exposer les choses comme une succession historique de faits en partant du péché d'Adam, en disant bah, c'est la cause première et lointaine. Alors, je vous rappelle une chose, c'est que Genèse 3 n'est pas un récit historique. C'est un mythe. C'est ça qui lui permet d'être exemplaire, d'être paradigmatique de ce qu'on vit. Donc, il faut abandonner l'idée d'un paradis perdu historique qui aurait existé. Il faut abandonner l'idée d'un être humain parfait qui, jadis, aurait chuté, etc. Il faut passer sur un registre théologique. Genèse 3 décrit notre condition. Il cherche à éclairer notre situation de pécheresse. Il ne dit pas, ça a été comme ça au premier jour de l'humanité. Donc, sortir d'une idée, d'une conception historicisante. Et puis, ben, peut-être exercer notre esprit critique, on a le droit de le faire. Et quand au XXe siècle, on a retrouvé toutes les sources patristiques, on a bien vu qu'on n'était pas coincé dans cette idée de péché originel. Il y avait à l'époque d'autres manières de voir. Alors, il y a peut-être un tri à faire sur certaines choses, en veillant à l'essentiel, qui est de ne pas mettre de côté est essentiel dans cette théorie. Parce que attention, hein, Augustin il nous a sauvés de Pélage en disant l'homme a besoin de la grâce de Dieu. Le péché nous précède et il est parfois plus fort que nous. Alors, si j'essaye de voir en deux, trois points qu'est-ce qu'elle nous dit de fondamental, cette théorie du péché originel, qui est utile pour nous aujourd'hui, bah, d'abord elle nous dit le mal est présent dans le monde, il y a une université du mal, touche tout le monde, partout, et qu'on a partie liée avec ce mal. On ne peut pas dégager complètement notre responsabilité personnelle parce qu'on est pris dedans. Concrètement, ça veut dire que je ne peux pas désigner ce mal simplement comme une chose qui serait extérieure à nous ou qui serait que chez l'autre. On a tous partie liée avec le mal. On en fait l'expérience bah d'abord sous la forme de notre péché personnel, celui qu'on commet volontairement, ça relève de notre responsabilité, mais on en fait aussi la forme sous la forme de quelque chose qui relève d'un asservissement, ben, Paul disait d'un esclavage, un mal qui relève d'une puissance qui n'est pas la volonté personnelle, une forme d'aliénation, ça c'est l'idée de péché originel. Alors, diapo. je vous repartage. Je vous remets une petite phrase de Besançon qui est bien éclairante. Lui, il a le don toujours de dire les choses. Ça, c'est le Christ janséniste. Tout le monde n'est pas sauvé. Voilà. Ce que nous appelons le péché originel, dit Besançon, c'est à la fois l'événement de ce premier refus, c'est-à-dire au sens de péché des origines, et sa contagion, telle que tout homme est maintenant empêtré dans le réseau du mal. C'est ça le péché originel. On est empêtré, naît, N-A-I-T, empêtré dans le réseau du mal. Donc, vous voyez, avec cette idée de péché originel, il s'agit de reconnaître que il y a quelque chose de blessé chez nous, d'abîmé. Dans l'humanité, il n'y a pas les purs et les mauvais. On est tous un peu grippés. Même les saints sont des pécheurs.
On a été créés comme ça.
Eh ben, on est sous cette emprise. On est sous cette emprise d'un péché qui nous conduit à ne pas faire le bien qu'on voudrait. Et c'est ça que vous voulez essayer de dire la doctrine du péché. Comment ça se fait qu'on soit sous cette emprise? Vous voyez?
Moi, ça m'évoque, pour le mal, ça m'évoque Paul en Romains 7, 19, quand il dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. »
Voilà, vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais.
Et voilà, et pour la grâce, ça m'évoque Matthieu, ça doit être en 19, 26, où il dit « À l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. »
Voilà, on va lire ça déjà, exactement. Car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais.
Ah ben oui.
On retrouve
ah ben, j'avais pas vu que c'était à l'écran.
Okay. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais l'accord avec la loi qu'elle est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Vous voyez ce qu'on vient de lire? C'est le péché logé en moi, disait Augustin. Et Paul dit, voilà, c'est le péché qui habite en moi. Car je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur. C'est-à-dire, j'adhère à cette loi. Mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. Vous voyez, cette idée d'une loi du péché. C'est ça le péché originel. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Ça, c'est hyper intéressant du point de vue du péché originel. Paul dit pas, Yaka, Faucon, si tu veux, tu peux. C'est vrai, en partie, mais jusqu'à un certain point, parce qu'à un moment, on sait que ça marche plus. Voilà, c'est ce que disait Augustin tout à l'heure, c'est moi qui voulais, moi qui ne voulais pas, je suis disloquée. Et bien, la doctrine du péché originel, elle nous invite à regarder en face cette part de mal qui est en nous, dont on est capable, et elle dit, tu es dans cet état, toi aussi, qui peut te conduire à une orientation néfaste par rapport à Dieu, par rapport à ta vocation. Et ce péché originel, cet état, à un moment, tu vas peut-être le ratifier par ton péché personnel, celui que tu commets volontairement. Le péché, ce n'est pas simplement un phénomène originel dans lequel on est et auquel on ne peut pas échapper. C'est aussi le fruit de notre liberté et d'un choix. Voilà.
Le problème qui se pose, c'est pourquoi a-t-on été créé pécheur?
On n'a pas été créé pécheur, on a été créé libre.
Mais on n'a pas été, on est.
On est créé libre.
Oui, mais avec un fond.
On avait vu qu'on n'expliquait pas le mal.
On n'explique pas le mal.
Ouais.
La doctrine originelle, simplement, elle nous dit, reconnaissons qu'on est tous pris, qu'on est tous empêtrés dans ce mal, dans ce péché qui est passif. En fait, il faut, c'est un peu le choix, c'est de l'avoir appelé péché originel. Parce que péché, il y a une notion active. Je fais vraiment quelque chose, je commets un péché. Or, péché originel, c'est de dire qu'il y a un état dans lequel je suis pris comme un peu aliéné, comme un peu, mais auquel je ne peux pas échapper, qui est cette puissance en nous, dont on a dit l'autre fois, l'origine. Alors, Augustin, il dit, ça, c'est la faute d'Adam. Et puis, ça s'est transmis jusqu'à nous. Et maintenant, comme on est ses descendants, on est tous pris dedans. Voilà. C'est là où on bloque un peu. Par contre, on est d'accord avec Augustin quand il dit on est tous pris dedans. Ou avec Paul quand il dit je vois cette loi du péché qui est en moi. Mais le fait, ce n'est pas d'avoir été créé pécheur. Vous rappelez les premiers cours, le risque ou le pari que Dieu faisait. À partir du moment où il pose quelqu'un en face de lui de libre, libre comme lui est libre, il y a la possibilité du refus, il y a la possibilité de l'éloignement, il y a. Alors, vous allez voir, les choses vont s'éclairer aussi tout à l'heure. Et pourtant, il en a pris le risque. Je ne sais pas si je réponds, comme je ne vois pas tout le monde. Attendez, je vais arrêter comme ça. Catherine.
Oui, cette théorie du péché originel, elle a fait des drames quand même. Moi, je pense souvent ma belle-mère qui n'est plus de ce monde, mais qui a perdu un bébé à la naissance, qui n'a pas été baptisée. Et elle est morte il y a moins d'un an, persuadée qu'il était dans les limbes.
Eh ben oui, invention d'Augustin, les limbes.
C'est terrible. J'ai eu beau lui dire qu'il était au ciel tout de suite, ça n'a jamais marché parce qu'il avait le péché originel et qu'il n'avait pas été baptisé.
Exactement. Et c'est ce que dit Augustin.
Dramatique.
Et vous voyez d'où c'est parti. C'est parti d'une pratique qui était qu'on baptisait les petits-enfants. Donc, si on baptise les petits-enfants en rémission des péchés, notamment, ça veut dire qu'ils sont marqués par le péché originel. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il fait, Augustin? Eh bien, il invente les limbes pour dire ceux qui ont été baptisés, qui sont les petits-enfants qui sont morts sans péché, on voit bien qu'ils n'ont pas péché personnellement. C'est-à-dire que le péché originel n'a pas été ratifié. Donc, il invente quelque chose de plus doux. Ça sera la peine la plus douce qui soit, mais ça sera quand même une peine éternelle, qui est celle des limbes. Ben, vous voyez, quand je dis qu'il faut exercer son esprit critique, aujourd'hui, personne, vous n'entendrez personne dire ça. Hein. Enfin, personne d'un peu.
Oui, mais c'était tellement ancré.
Ben oui. C'est vrai. Alors, vous allez en Orient, vous n'entendez rien de tout ça. Hein. Rien de tout ça. Ça, c'est vraiment la théologie occidentale marquée par Augustin. C'est pour ça que je dis que Augustin, c'est un immense génie. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme de théologie, le cite 2000 fois. Magister Dixit. C'est sa première source après Aristote. Donc, c'est un maître. Il a fait écrit des traités, des sermons, des extraordinaires. Mais sur ce point particulier, alors, c'est pas de bol parce que c'est ce qu'on traite là. Mais sur ce point particulier du péché originel, c'est vrai qu'il a laissé un poids et que ça a fait des dégâts.
Après, bien malin, celui qui pourra dire exactement ce qu'il en est quand même. On a les évangiles, on a la parole vivante sur laquelle on peut se fonder. Mais à nouveau, dans ces débats avec une jeune orthodoxe, il y était question de salut, de différence, purgatoire, salle d'attente, parce qu'ils n'ont pas le purgatoire. Et tout ça, en fait, on n'a pas de preuves. Hein.
Ah ben non, il n'y a pas de preuves.
C'est pas évident.
Non, vous ne seriez pas là.
C'est non, pas évident de. Et moi, j'en suis arrivée à la conclusion que, somme toute, du purgatoire à la salle d'attente, il y avait des points communs.
C'est le cours neuf.
D'accord.
Donc, on en reparlera du purgatoire.
Très bien.
Voilà.
C'est la foi, quoi.
Comment ?
C'est la foi. S'il y avait des preuves et des explications, il n'y aurait plus de foi.
Non, mais il y a quand même, bien sûr, et en même temps, il y a la raison pour essayer de quand même rentrer dans ce mystère et pas dire n'importe quoi et pas tout gober. Si on écrit avec une intelligence, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser notre intelligence pour rentrer dans cette connaissance de Dieu. Donc voilà. Et en même temps, j'ai dit au premier cours, ça.
Oui.
Toujours rester humble par rapport à ce qu'on dit.
Il ne faut pas devenir trop intellectuel quand même.
Pas devenir trop intellectuel. Surtout se méfier des certitudes. Mais voir, et justement, je pense que de voir cette histoire et de voir comment les choses évoluent dans l'histoire et de voir qu'il y a un pluralisme de théologie nous aide à être peut-être plus solide sur ce qui est vraiment important et qu'il faut tenir absolument, du genre le salut est premier, et plus souple sur des aspects, par exemple comme les limbes. Mais ça, c'est justement au fur et à mesure qu'on lit, qu'on discute, qu'on réfléchit, qu'on confronte, qu'on se dit ça c'est le cœur de la foi et ça il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher que Dieu veut notre salut, il ne faut pas lâcher que Jésus est ressuscité, il ne faut pas lâcher que voilà. Par contre, il y a des choses, la transmission par génération, par l'acte sexuel, on peut peut-être lâcher. Vous voyez ? Voilà, alors, donc vous voyez, si je récapitule cette doctrine du péché originel, elle nous dit qu'on est solidaire dans le mal. Ça, c'est vraiment parce qu'on est empêtré, pour reprendre le mot de Besançon. On est solidaire dans le bien, hein. Par exemple la communion des saints, on est solidaire dans le bien, dans la prière, dans l'intercession, mais on est aussi solidaire dans le mal, parce que quand on arrive dans le monde, on est tributaire de ce monde dans lequel on évolue, dans le climat dans lequel on va, on est toujours modelé par notre milieu de vie, dans ce sens-là, on en est solidaire. Mais dans l'autre sens, Nous aussi, on est responsables du péché du monde. Et notre péché, il faut bien avoir conscience qu'il n'a pas simplement un caractère personnel, qu'il a une dimension sociale, qu'il engage les autres, qu'il affecte la communauté dans laquelle on vit. Et que de ce point de vue, on peut dire que mon péché se transmet aussi. Aussi l'articulation entre péché personnel et péché collectif. Il y a des structures collectives de péché. À la fois, on est pris dedans et à la fois, on en est en partie responsable. Donc, on ne peut pas dissocier tout ça. Donc, ça. Et puis, la troisième chose que nous dit cette théorie du péché originel, c'est que solidaire dans le mal, on est aussi dans le salut. On est toute l'humanité est solidaire dans le péché et dans le salut. Et tous les enfants d'Adam seront tous sauvés en Jésus. Ça, c'est vraiment l'enseignement majeur de la vie. Dieu sauve. Alors, je vous ai dit en commençant, on n'est pas toujours à l'aise avec cette idée. Mais ça, c'est l'origine, c'est l'idée centrale et dès le départ. Et il faut voir à quel point c'était original de penser ça. Parce que quand la Bible dit ça, et autant de Jésus, quand on dit Jésus sauve, il faut voir l'environnement dans lequel on était. On est dans une culture grecque, partout à côté. Et c'est la fatalité de l'antiquité païenne. Et quand on dit Jésus sauve, mais on dit quelque chose de fantastique. C'est une nouvelle fantastique. C'est-à-dire, dans cette fatalité, Dieu ouvre un passage, il crée une brèche, c'est une libération, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, retrouver, nous, cette idée de salut, retrouver le sens de ce que ça veut dire, la retrouver comme une bonne nouvelle aussi. La dernière partie est beaucoup plus courte, je vous rassure. Vous avez dit la partie 3, elle est un peu raide, mais en même temps, le péché originel, ça. Bon, il faut en avoir entendu parler d'une manière un petit peu plus technique une fois en passant. Est-ce que ça, vous voulez qu'on reste un tout petit
peu? Non, juste sur la transmission du péché par l'acte sexuel, j'ai trouvé que c'était, moi j'en avais pas entendu parler en fait, et en même temps j'ai fait l'analogie avec, on dit que parfois il y a des malédictions qui se perpétuent de famille en famille. Et donc, j'ai retrouvé dans cette idée-là, je ne sais pas quoi en penser du tout, mais est-ce que, j'avais tendance à penser qu'il pouvait y avoir une part de vrai, qu'il y a des familles où qui se retransmettent des dons qui ne sont pas forcément hérités de Dieu, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui m'interpelle un petit peu et où je me dis qu'il y a peut-être quand même un fond de vérité quelque part.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Sauf que lui, il dit... C'est vraiment par l'acte sexuel que ça se transmet.
Oui, donc ça connote terriblement négativement, alors qu'on est capable d'y voir. Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression.
C'est quand la sexualité est déliée de l'esprit. Donc c'est quand on se fait complètement gouverner par ses désirs, par ses pulsions et qu'on ne contrôle plus rien. Ça, c'est la concupiscence. C'est un désordre du désir, en fait. Et donc Augustin, il dit l'acte sexuel, c'est mauvais. Voilà, c'est resté après, des trucs comme ça.
Vous ne connaissez pas grand-chose à la génétique à l'époque, quand même.
Non, mais voilà. Mais il avait vu à quel point ça l'entravait, lui. Donc, vous voyez, il était porté à penser ça. Pour répondre à Anne aussi, on appelle ça transmission par génération ou par propagation. L'opposé de Pélage. Parce que Pélage, il dit, non, pas du tout. L'homme est complètement libre. L'homme, il a tout ce qu'il faut pour résister et pour ne pas pécher s'il ne veut pas pécher. C'est une question de volonté, d'effort, pas besoin de la grâce. Et donc, si l'homme pêche, c'est par imitation. C'est pas par propagation, c'est par imitation. Adam, c'est un mauvais exemple à ne pas imiter. Et puis Jésus, c'est un bon exemple à imiter. Donc, vous voyez l'opposition entre Pélage et Augustin, propagation, imitation. C'est un petit détail. Alors, l'universalité du salut en Jésus-Christ. Vous avez compris, péché originel, doctrine seconde, par rapport à une vérité première et fondamentale, c'est que tous nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Tous, on est placés sous la miséricorde de Dieu. C'est fondamental à comprendre, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir repéré dans votre parcours aussi, c'est qu'il y a une hiérarchie des vérités, un ordre des vérités. Dans la foi, le salut est premier. Dieu veut le salut de tous. Et ce salut qui nous est acquis en Jésus-Christ est universel. Je veux dire par là, c'est que ce n'est pas simplement les chrétiens qui seront sauvés. C'est la multitude. Alors, vous allez voir.
Dieu, je, je,
Attendez, laissez-moi finir. Dieu, et parce qu'après, je vois très bien ce que vous allez me dire. Et...
Non, je ne pense pas, mais c'est pas grave.
Alors, je vous donne quelques petits exemples de l'écriture, plusieurs. Paul, Jean, les évangiles, pour dire que Dieu veut le salut de tous les hommes. Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, vous voyez, le double sens de élevé sur la croix, hein, Jésus crucifié, et quand je serai élevé dans la gloire, ben, j'attirerai à moi tous les hommes. Romains. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, c'est ce qu'on vient de dire, pour faire à tous miséricorde. On disait universalité du salut, Romains 5. Première lettre à Timothée. Dieu, notre sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, dans l'écriture, on a cette idée de salut qui à laquelle on est tous appelés. Je prends tout proche de nous, Vatican II. Il y a des textes là-dessus. Et Vatican II réaffirme cette unité du salut dans plusieurs textes, dans Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église, dont on parlera l'année prochaine, et dans celle que vous connaissez, qui est Gaudium et Spes, paragraphe 22, on l'a lu déjà, ce texte. Voilà. Alors regardez, ça c'est un texte, un petit paragraphe qui vaut vraiment le coup de connaître. Le chrétien associé au mystère pascal, donc ça c'est nous, devenant conforme au Christ dans la mort, fortifié par l'espérance, va au-devant de la résurrection. Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur desquels invisiblement agit la grâce. En effet, puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est véritablement unique, c'est-à-dire la même pour tout le monde, à savoir divine, ça veut dire tous les hommes sont faits pour l'union à Dieu, phrase très importante maintenant, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Et ça va vraiment très loin. Là, dans ce texte, Vatican II dit, nous pouvons espérer le salut de tous parce que tous partagent une même vocation. Tous sont faits pour l'union à Dieu. Et on croit que dans le cœur de chacun, invisiblement agit la grâce. Et on croit que l'Esprit Saint offre à tous, dernière phrase, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal, c'est-à-dire à sa mort et à sa résurrection. Alors vous voyez, dans notre situation aujourd'hui, il y a des sondages qui sont parus il n'y a pas très longtemps, sur le christianisme en France. Vous voyez bien qu'on devient mais archi minoritaire. Comment est-ce qu'on pourrait faire, rien que dans notre pays, de l'appartenance à l'Église et du baptême, la condition de l'union à Dieu. Ça veut dire qu'il y aurait 3% de sauvés, enfin non, il n'y a pas 3% de baptisés, mais 3% de pratiquants, je crois. Enfin, je ne sais plus. Peu. Vous voyez, est-ce que raisonnablement, on peut penser que seul ce petit reste sera sauvé? Vous voyez, donc ça nous amène à penser différemment aussi, penser différemment l'Église. Peut-être pas comme l'Église, celle qui doit convertir à tout craint, mais peut-être celle qui a une responsabilité, une parole de salut à faire retentir, à faire fructifier. C'est important qu'il y ait au cœur de l'humanité un petit corps de disciples qui, pour reprendre l'expression de Vatican II, soit sacrement de salut, signe et moyen du salut. Mais là-dessus, vous aurez un cours de l'année prochaine sur Vatican II. Donc, universalité du salut. Et là, je termine juste avec quelques questions. Alors là, je ne les traite pas. J'en ai un mot à chaque fois. Mais pour vous montrer un peu le paysage théologique. Et que vous voyez à quel point cette question du salut, elle reste complexe et elle reste débattue. Est-ce que les religions non chrétiennes sont des voies de salut? Alors, je ne parle pas des orthodoxes, je ne parle pas des protestants. Les religions non chrétiennes, islam, judaïsme, bouddhisme, est-ce que ce qui est vécu peut servir de médiation au don de Dieu? On dit Dieu se donne à tous. Dans quelle mesure ça passe par ces traditions religieuses?
Moi, je dis oui.
Vatican II aussi.
Moi aussi.
Mais vous voyez, pour définir ça, il faut du discernement, il faut du dialogue. Eh bien, Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église de Vatican II, vous l'étudierez l'année prochaine, elle porte sur ces religions un regard positif. Elle dit, c'est bien évident qu'une relation à Dieu passe aussi par là et que Dieu n'est pas loin de ces hommes religieux et qui peut agir en eux. Deuxième question. On dit chez nous, Jésus, l'unique médiateur. Alors comment l'unique médiation du Christ peut s'exercer hors du christianisme ? On dit le salut vient par Jésus. Alors pourquoi est-ce que c'est unique cette médiation ? Eh bien parce que le Christ,
c'est pas un chrétien. Hein,
parce que le Christ, c'est celui en qui le don de Dieu nous atteint de la façon la plus radicale et définitive possible. Toutes les traditions religieuses s'approchent de Dieu, mais l'acte unique par lequel Dieu rejoint notre humanité s'inscrit dans notre histoire, c'est l'incarnation du Verbe. C'est en Jésus-Christ. Et ce n'est pas simplement en tant qu'il est reconnu par les chrétiens, mais en tant qu'il concerne toute l'histoire des hommes. En se donnant jusqu'au bout, Jésus fait homme, Dieu fait homme, nous fait entrer dans la vie même de Dieu. Et c'est la résurrection. Et cette résurrection qui fait entrer notre humanité dans la vie de Dieu, ça vaut pour toute l'humanité, pas simplement pour nous, les non-croyants. Ça vaut pour tous, parce qu'il a partagé l'humanité de tous. Et puis après, parce que dit Gaudium et Spes, ben, l'Esprit Saint fait son travail dans les cœurs, rejoint chacun, fait entrer chacun dans la vie de Dieu, par les chemins que Dieu connaît. Troisième question, hors de l'Église, point de salut. C'est un adage que vous avez déjà entendu. On a dit ça aussi. Ben alors, hors de l'Église, point de salut, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas sauvé.
Périmée, non ?
Il explique pourquoi est-ce qu'on a pu dire ça à un moment de l'histoire. Et puis, les hauts et les bas. Et ben, au début, on a dit ça parce que dans les premiers pères, Origène, Cyprien, ça visait des gens qui voulaient quitter l'Église, des schismatiques. On était à des périodes d'hérésie. Donc, il y en avait beaucoup qui voulaient se séparer. Et ils disaient, mais non, hors de l'Église, point de salut, restez. Refusez les schismes, ne portez pas atteinte à l'unité de l'Église. C'est ça l'intention au départ. Et puis après, ça s'est complètement durci. Et à l'époque médiévale, au XVe siècle, on l'a interprété d'une manière extrêmement raide et stricte, en disant ben, y a de salut que pour ceux qui sont dans l'Église visible. Le contraire de ce que dit le Lumen Gentium maintenant. C'est quand même dans des conciles, hein. Concile de Florence. Seuls les chrétiens seront sauvés. On durcit le truc. Alors, qu'est-ce qu'on répond à tout ça ? Et c'est pas si simple.
C'est pas dit dans l'Évangile, hein. C'est plutôt l'inverse. Hein. Il va chercher en dehors des siens. Voilà.
Il y a des conciles qui disent ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Le concile a tort, mais le concile, quand même, c'est ce qui a la plus grande autorité. Vous voyez, ça fait réfléchir encore. Bah, d'abord, que les textes des conciles doivent être placés dans leur contexte. Et qu'à l'époque du concile de Florence, on n'a pas découvert l'Amérique, le monde, c'est pour nous, pas pour vous, ma sœur, hein, pour nous, Français, le monde, c'est l'Occident. On ne pense même pas qu'il y a autre chose. Et donc, bah, tout le monde a eu accès à l'Évangile. Maintenant, bah, ceux qui n'y croient pas et qui se mettent hors de l'Église, dans un monde chrétien, tant pis pour eux. Hein.
Oui, mais alors...
Après, on découvre. Et donc, hop, on fait refluer l'affirmation. On la prend pour Dieu.
Pourquoi être chrétien ?
C'est la meilleure médiation, on vient de dire.
Alors, pourquoi être chrétien ? Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que vous répondez les uns et les autres ?
Ben, c'est le Verbe incarné, donc...
Oui, mais pourquoi être chrétien ? Puisqu'on sera tous sauvés.
Exactement.
Mais parce qu'on a plus de dons en étant chrétien. Les miracles, aujourd'hui, c'est dans la religion chrétienne. Les charismes, c'est dans la religion chrétienne. Le vecteur d'accélération et de révélation le plus extraordinaire, c'est dans la religion chrétienne. Voilà, je n'entends pas parler de miracles dans la religion musulmane. Ensuite, pourquoi la place des femmes y est formidable ? Est-ce qu'on le salue de l'homme à terme ?
Là, vous savez, on peut vite vous réfuter les arguments, hein, parce que l'Église aujourd'hui, est-ce qu'elle donne tellement envie ?
La place des femmes.
La place des femmes non plus.
Si, moi, quand je regarde dans l'Apocalypse, c'est la femme qui écrase. Et quand je regarde l'Église aujourd'hui, heureusement que les femmes sont là dans les Églises. Hein. Et quand je regarde le rôle.
On va pas rentrer là-dedans.
On va faire le synode, mais.
Non. On ne va pas rentrer là-dedans.
Mais par rapport à la religion musulmane.
Alors, je vais vous donner ma réponse.
Pourquoi
est-ce qu'on est chrétien ? Chacun peut se poser la question pour soi.
Voilà.
Ben, moi, je suis déjà chrétienne puisque j'ai baigné là-dedans.
Moi aussi.
Je suis née là. Et je pense que peut-être que je serais née dans un pays d'islam, je serais peut-être musulmane aujourd'hui. Et ma sœur, peut-être que vous avez beaucoup de sœurs qui sont, je ne sais pas, quoi. Non.
Enlever le
bouddhiste.
Vietnam, quelle est la religion ?
Il y a beaucoup de chrétiens, mais. Bouddhiste ?
Mettez le micro.
On a beaucoup de bouddhistes dans notre pays.
C'est ça.
Bon. Ben voilà, on a toutes les chances d'être bouddhiste quand on est au Vietnam. Moi, je suis dans une famille chrétienne qui m'a élevée dans une tradition chrétienne. Je suis chrétienne. Alors déjà, il y a ça. Après, pourquoi est-ce qu'on reste chrétien ? Ben parce qu'il y a un moment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on se laisse rejoindre par une parole et que cette parole, elle vous parle au cœur et que vous voyez qu'elle vous fait grandir, que plus vous la découvrez, elle vous paraît vous donner un horizon qui consonne avec votre vérité profonde et que vous vous dites, ben oui, c'est là où je reconnais le plus quelle peut être ma vocation, quel sens ça peut donner à ma vie, et ça consonne avec mes, je vais pas dire mon
désir profond, dirait le jésuite.
Mon désir le plus profond. Et puis après, ben, on se lance, à un moment, on fait le saut de la foi, ou si on l'a pas été élevé là-dedans, ben, on bascule, à un moment, de toute façon, il faut se l'approprier, cette foi, même quand on a été élevé dedans. Et puis on se dit, ben, ouais, ça vaut le coup. Et ça me donne envie de creuser plus, et voilà, c'est tout ça. Et moi, vous voyez, mais chacun est différent, chacun a sa... Moi, ce n'est pas les miracles qui me font croire.
Ça ne vaut pas du tout.
Vous voyez, mais chacun son chemin. Je pense qu'il y a des gens qui vivent une expérience hyper forte et que ça peut être... Il y a des conversions très brutales. Augustin, il a mis 30 ans à se convertir quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait se convertir ? Bah, lui, c'est l'expérience de la grâce. Mais qu'est-ce qu'il avait cherché avant ? Hein ? Qu'est-ce qu'il avait cherché ? Et à un moment, il entend cet enfant qui lui dit, vous lisez les conditions, une voix à côté, prends, lis. Et il ouvre le livre et il dit tout d'un coup, quelque chose a surgi en moi, mais qui était l'accomplissement de tout un travail. Mais il dit ça, c'était la grâce en moi.
Comme Ignace.
Mais avant, Sainte Monique, elle a bien prié, elle a bien pleuré pendant 30 ans. Donc, voilà, ça c'est... Ça, je crois que c'est vraiment à chacun de...
C'est une rencontre personnelle. Vers qui irions-nous ? Voilà. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est vraiment un chemin de rencontre personnelle.
Exactement. Non, mais il y a des jours où on essaye de faire des efforts.
Oui.
Et où on se dit, après tout, le salut est pour tous. Je pourrais me laisser aller à la pire.
Moi, je ne crois pas que le salut soit pour tous, perso. Donc, je pense que c'est très personnel, après. Je pense que Dieu est miséricordieux, mais que si on a été orgueilleux et qu'on a refusé Dieu toute sa vie, venu, on dit non.
Alors là, on en reparlera. cours 9 sur l'enfer. Parce que je dis ici, je dis,
mais c'est notre liberté.
Conviction fondamentale de la Bible, c'est que Dieu offre son salut à tous, qu'on peut espérer le salut de tous, même ceux qui ne sont pas dans la religion chrétienne. De toute façon, il suffit de voir à côté de soi. Maintenant, il y en a de plus en plus des non-chrétiens. Et ben, on voit qu'il y en a qui vivent une vie humaine, beaucoup plus humaine et beaucoup plus chrétienne que certains chrétiens, apparemment. Oui, donc, voilà. Et puis après, ça sera le jugement de Dieu. C'est pas nous qui jugeons.
On pourrait être notre auto-juge avec la liberté jusqu'au bout en fil directeur et décider de refuser.
Mais ce que je ne dis pas, c'est que la perdition éternelle est totalement à écarter. Je dis que c'est une possibilité, on verra ça, mais que pour autant, Jésus est venu pour sauver tous les hommes. Bon, d'abord, ça serait horrible parce que ça voudrait dire que tous ceux qui sont nés avec lui, avant lui,
pas juste,
seraient tous damnés. Déjà, ce n'est pas possible. Ou que tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui seraient tous damnés. Donc, ça, c'est pas possible. Juste. Quand on voit le Dieu de la Bible et quand on voit le Dieu qui s'appelle en Jésus. Ah ben, bonjour, en tout cas, on a du débat et on a de quoi
réfléchir,
voilà. Attendez, j'arrête l'enregistrement. Voilà.